Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Avec nous des chroniqueurs qui sont au taquet hein, après le match je suppose de hier soir. Hein. Alexandre avec un petit sourire, comment ça va Alexandre?
Enfin, ça va très bien, enfin un peu de foot de la part de Deschamps.
Enfin?
Enfin ouais.
Lucas, tu partages le même avis?
Je m'entends pas. On m'entend ?
Ah oui, moi je t'entends.
Bah super. Bah je partage le même avis, oui. On a vu un beau match hier, ça faisait plaisir de voir l'équipe de France comme ça. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait une telle performance.
Et Cheikh Kenza qui a dégainé le costume aujourd'hui, en quel honneur Cheikh Kenza pour la victoire des Bleus, la qualification des Bleus en demi-finale, c'est ça ?
Oui.
Ou c'est
oui.
Pour le match de la Côte d'Ivoire ce soir ?
Non, pour la qualification des Bleus. Après la Côte d'Ivoire, je sais qu'ils vont gérer, t'inquiète.
Bah, ils gagnent 1-0 là, but ouais, de valeur. Ouais.
En plus, je crois que vraiment Didier Deschamps, vraiment, voilà, il a fait sortir le 11 type qu'on attendait, parce qu'il y avait beaucoup de choses vraiment à revoir. Et Olise, vraiment, il a joué en constat. Voilà, il a été très, très impressionnant. En plus, pour son premier but en bleu, voilà, il nous sort vraiment un coup franc magnifique. Ça faisait vraiment pas mal de temps qu'on n'avait pas vu ça. J'ai été impressionné par le niveau des Bleus, que ce soit défensivement et offensivement aussi.
Merci, Cheikh Kenza. Maxence ?
Comment ça va, Eladj ?
Ça va et toi ?
Très bien,
On doit te poser la question, t'as pas vu depuis 2 semaines, il me semble ?
Ouais, c'est possible, ça fait deux semaines.
On t'a pas vu, du coup, le Classico ?
On n'est pas sur l'équipe de France, j'ai pas reçu dans le programme, j'avais pas vu le Classico, etc.
On parle de foot, c'est bon.
Cette thématique.
On parle de football, mais...
Non, y a pas de problème, on s'y attend, on a l'habitude maintenant, ça fait plus grand-chose.
Du coup, alors, bonne semaine de football, je suppose, quand même.
Ouais, semaine sympathique, même si j'avoue que j'ai... quand même hâte que le foot de club reprenne. Après, avec l'équipe de France, bon, on en reparlera plus précisément, mais c'est pénible d'attendre d'être au pied du mur pour se mettre à jouer un petit peu comme on le voudrait, comme on l'attend depuis des années. Et j'ai bien peur de la réponse à la question que j'ai posée, mais contre l'Espagne sur un match unique, est-ce que Deschamps ressortira la formule à 4 offensifs ? On sait tous que non, et donc on retrouvera un milieu à 3 bien travailleur, avec du Rabiot.
Bien travailleur, mais qui ne travaille pas en fait.
Qui travaille peu et qui n'a pas grand-chose d'autre que le travail. Quoi. Donc c'est dérangeant, mais bon, on en reparlera plus précisément, je pense.
Je pense qu'on va y revenir, hein. on va rentrer dans le vif du sujet hein, tout de suite. On va parler bien évidemment de la qualification des Bleus au tir au but. Hein. Ça fait plaisir quand même de voir la France s'imposer au tir au but, quand même si ça nous a, on a eu pas mal d'adrénaline quand même. Mais je pense qu'avec Magic Maignan, c'est déjà pas mal.
C'est pas de la loterie le football, hein. c'est pas du hasard. Hein.
Contrairement à ce que certains disaient, on voit bien que c'est pas de la loterie. En tout cas, Mike Maignan ne partage pas cet avis du tout. Et il pense que c'est quelque chose de travaillé.
Maignan fait gagner les séances. Donnarumma fait gagner les séances. On voit qu'il y a des spécialistes.
Hugo Lloris, c'est ouais.
Ça Hugo Lloris, on va pas revenir sur Hugo.
Crachez pas sur Hugo Lloris, s'il vous plaît.
Quand même, après, c'est le capitaine vainqueur de la
Coupe du
Monde.
Ne soyez pas ingrat, s'il vous plaît.
Ouais, bah, il aurait pu être capitaine vainqueur de 2 Coupes du Monde. Mais
il a été d'une,
après, c'est le foot.
C'est déjà pas mal, ouais.
Mais c'est pas la loterie, du coup. C'est le foot.
On va revenir tout simplement. Bah, déjà, je voudrais un premier avis sur le match aller de l'équipe de France qui ont perdu 2-0 face à la Croatie. Hein, la Croatie juste trop fort avec un Modric 41 ans,
39
bientôt 40 là cette année.
C'est incroyable, ouais.
Franchement, ils jouent un match 92-13 minutes. Ah, et que contre, parce que je tiens à rappeler, hein, l'âge moyenne de l'équipe de France est très jeune quand même. Hein. Ils doivent avoir 26-27 d'âge moyen.
À peine.
Hein.
Parce que je vois beaucoup de trentenaires. Hein.
Bah, les plus anciens, c'est juste Mbappé, il n'y a même pas de 30.
Maignan en 29
Non, Maignan 30, il me semble.
Il va sur 30 cette année, je crois.
Il va sur 95, Maignan. C'est ça.
Mais voilà, derrière, c'est hyper jeune.
Au milieu aussi.
Tout le reste, c'est jeune. Tout le reste, c'est jeune.
Tu dois avoir du Digne aussi, qui doit avoir une petite trentaine, ouais, pas loin dans ces eaux-là.
28, 29, ouais, peut-être.
Non, je crois que c'est en 94. Ouais, Digne, donc une trentaine. 93, donc 30, 31, 32. Ouais.
Mais ouais, sinon, Dembélé et Mbappé sont déjà des anciens dans cette équipe, quoi.
Ouais, à 27 ans.
Sinon, sur le match aller, moi, je respecte totalement la Croatie. Alors, match, il a été super, hein, mais faut pas qu'on nous le présente comme une grande équipe mondiale et une grande équipe leur match aller, hein, pardon, comme une
ouais,
grande équipe.
Leur match aller, il a pas été super. Hein.
Non, mais avec leurs moyens aussi. Moi j'ai vu un Perisic avec leurs moyens, mais pour moi l'équipe de France à 60% peut pas être en difficulté contre la Croatie, c'est impossible. On parle d'une équipe qui a eu du mal à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Nations, qui est sur des échecs sur les dernières années parce qu'ils sont vieillissants.
L'euro est catastrophique.
L'euro est catastrophique.
Mais c'est parce qu'ils ont un effectif qui est vieillissant.
Bien sûr. Mais donc, on ne peut pas traiter une contre-performance en Croatie comme on traiterait une contre-performance en Espagne, en Allemagne, au Portugal, contre des équipes qui sont, on va dire, un petit peu notre équivalent. Là, on ne parle pas de la même chose, et on l'a vu hier, avec une équipe de France qui a joué à peu près, qui a fait un bon match, mais qui a joué à 80%, on surclasse cette équipe croate, et c'est ce qu'on aurait dû faire sur les deux matchs. Il n'y a pas de débat, c'est être dans cette situation-là qui est déjà un problème, en fait. Et ne pas être proactif, et ne pas être dominateur dans ta façon d'aborder le match, c'est déjà une grosse erreur. C'est comme si demain le Real contre une équipe ventre mou de Liga, il commençait en étant un petit peu timide. Ça doit pas exister, c'est pas possible.
Merci Maxence. Après le 2-0, Lucas, est-ce que tu pensais que l'équipe de France allait le faire?
Je pensais que l'équipe de France pouvait le faire, allait le faire, je sais pas, mais j'étais rassuré dès que j'ai vu la composition, comme beaucoup je pense, parce que moi dès que j'ai vu un milieu de terrain pour le match aller, Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot, je l'ai pas senti. Je pense que avec des joueurs qui ont tant le même profil et qui sont si peu créatifs, tu vas pas faire une équipe. Et en fait là, Deschamps, il a un petit peu, c'est quand même un aveu d'échec, ce qu'il a fait pour moi, le fait de changer à ce point sa composition, de enfin passer à 4 offensifs, après avoir dit 2 jours avant que Doué, de toute façon, c'était un ailier, c'était pas un milieu de terrain, etc. Il s'est quand même résolu à mettre un vrai 10, un joueur offensif en plus, et ça s'est vu dès le début dans l'utilisation du ballon, mais pas seulement pour l'attaque, pour la défense aussi. On a mieux défendu, Tchouaméni a été beaucoup plus en vue, parce que là il y avait quelque chose à stabiliser. Quand le jeu est tout le temps stable, bah, il n'y a rien à stabiliser, t'es là, t'es en 6, mais on a l'impression que t'es à contre-emploi, alors que là il y avait du déséquilibre, la France allait vite, la France a su piquer, et en fait on voit que Manu Koné et Tchouaméni, bah voilà, deux joueurs avec des profils différents, c'est super complémentaire, et après les quatre devant, ils parlent le même football, ils se sentent très bien. Encore un petit manque d'efficacité de la part de Mbappé sur les deux matchs, c'est quand même beaucoup d'occasions manquées, et aussi Barcola qui en rate une belle en première mi-temps je crois, mais globalement très bon match, et avec cette animation c'est pas étonnant de voir la France passer, on aurait même pu imaginer une victoire 3-4-0.
Merci Lucas. Franchement, je me posais la question, il manquait pas un être au milieu de terrain, il me semblait, moi, d'après en tout cas les derniers matchs, hein, N'Golo Kanté m'a énormément manqué au milieu de terrain, au match aller. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, chez Kenza?
Oui, vraiment, oui. Si l'aspect percussion, si l'aspect aussi, j'en peux apporter un plus, en fait, au niveau du milieu de terrain, genre le surnombre, si certaines transitions et tout ça, N'Golo Kanté, il était très bon. Ça, c'était l'un de ses meilleurs registres. Mais du côté défensif, je pourrais pas dire non, je pourrais pas dire qu'il aurait manqué. Parce que, en fait, le match aller, on le perd, par exemple, sur le sud-nord au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, on a vu que les Croates, ils ont été meilleurs dans l'utilisation du ballon, ils ont été meilleurs dans certaines choses, en fait, sur les transitions rapides et tout ça. Le premier but, c'est un pénalty. D'entame, on était bon dans le match. Après, on a un peu sombré parce que notre jeu, il était pauvre. On n'arrivait pas vraiment à créer vraiment des occasions et tout ça. Il n'y avait pas vraiment une entente qu'on peut dire cordiale et tout ça. Il n'y avait pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que le milieu n'avait pas les moyens vraiment pour fournir de bons ballons à l'attaque. Et là, on l'a vu au match retour, on a vu un certain Olysée. Même si ce n'est pas la même formation, ce n'est pas un 4-3-3, c'est un 4-2-2, mais qui est en fait qui varie selon l'utilisation du ballon. Parce que quand on avait le ballon, On avait comme l'impression qu'on jouait en 4-3-3. C'est-à-dire un Olise vraiment qui dézonnait, qui était plus axial et tout ça, qui participait un peu et tout ça, en fait. Qui
jouait en fait. Il a fait son match défensivement aussi.
Oui, oui, mais qui jouait un peu en 10 et tout ça, genre, en fait, qui pourrait plutôt, en fait, qui était derrière plus les attaquants que plus un genre milieu excentré, quoi, comme le 4-4-2 l'indique. Donc, je crois que l'animation a beaucoup joué, mais N'Golo Kanté, on ne pourra pas dire. Je pourrais dire qu'il a manqué, en fait, mais pas entièrement, mais il a manqué dans l'aspect offensif. Parce que c'est quelque chose qui lui réussit très bien. C'est quelqu'un voilà, qui peut casser des lignes. Chose qu'on n'avait pas avec Tchouaméni et tout ça, qui est un peu statique dans son milieu. C'est moyen Tchouaméni, on le sait tous. C'est un bon joueur, mais c'est pas un excellent joueur. Ça en fait, je ne crois pas que vous pourriez en dire autrement sur ce plateau. En fait. Donc, par contre,
N'Golo,
c'est
un excellent joueur, Tchouaméni.
C'est un excellent joueur.
Moi, je trouve ça un excellent joueur.
Non, ben, chacun est libre. Ça, c'est
pour moi, quand tu joues au Real Madrid, que tu es titulaire, tu es forcément un excellent joueur.
C'est un très bon joueur, on va vous mettre d'accord.
Non, c'est un bon joueur. Parce que, écoute, il y a des joueurs par le passé qui ont joué au Real de Madrid qui n'étaient pas d'excellents joueurs. Jérémy Gittab. C'est pas un excellent joueur.
C'était un excellent joueur.
Non, mais tu peux jouer dans les grands clubs et n'est pas trop fort.
Un des meilleurs milieux camerounais de l'histoire, c'était un excellent joueur.
Non, on a vu Jérémy Mathieu qui a joué au Real de Madrid, qui n'était pas un excellent joueur. À Barcelone, qui était un bon joueur.
Qui n'était pas un excellent joueur.
Voilà, donc.
Quand il est recruté, il fait une excellente saison.
Bon, mais non, moi, pour moi, Tchouaméni, il est moyen. Ça passe. C'est quelqu'un voilà, qui peut faire des passes et tout ça, qui est très bon dans la récupération, qui peut jouer long et tout ça. Mais
c'est un mec fiable, les entraîneurs adorent ça, surtout voilà, Ancelotti, Deschamps, voilà. Ils ont besoin
mais
de gars sûrs.
C'est pas vraiment, c'est pas la qualité, voilà, c'est pas le top, c'est pas N'Golo Kanté, c'est pas Pogba.
C'est pas le registre.
Ouais, après, mais
c'est
pas Pogba. Top à tous les postes
c'est pas
dans
Pogba,
ton équipe
donc
sur
c'est
Lyon,
limite
non,
en fait.
C'est pas Pogba que tu
dois avoir des soldats
dans
aussi.
Dans sa compréhension du jeu, dans la façon qu'il a d'être le leader défensif du milieu. C'est un excellent joueur, Tchouaméni. Avec en plus, son jeu long.
Moi, je crois que Tchouaméni, il est moyen. Il est moyen, il a toujours démontré. Parce qu'au match aller, vraiment, il ne propose rien.
Mais au
parce
match aller, il joue avec. C'est le cœur du problème. Au match aller, il joue avec Guendouzi et Rabiot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Tu mets n'importe qui.
Hier, il est avec Manu Koné. Et comme tu l'as dit très bien, avec Olise en 10 qui donne des solutions. Hier, il a été hyper disponible. Il lance plein d'actions. C'est ce que j'allais dire. Il annule plein de contres. Oui. Il y a plein de situations qui n'ont même pas eu lieu, qui ont été tués dans l'œuf, parce que Tchouaméni veille, et quand, pour moi, quand il joue comme hier, peut-être d'ailleurs, il avait brillé à Monaco dans un milieu à deux avec Fofana,
oui.
Peut-être que c'est son meilleur poste avec des joueurs créatifs devant, ou à deux, ils font l'essuie-glace, et moi je trouve hyper efficace dans ce registre-là.
Et puis ils ont aussi plus de solutions à la relance, parce qu'ils en ont quatre devant.
Et puis Manu Koné, c'est pas exactement le même profil non
mais
plus.
C'est pas le même profil, parce que Manu Koné, lui, se projette plus,
exactement.
Et voilà, il casse des lignes et tout ça.
Et qui parle le même football que ce devant plus. Et tu vois, ça veut dire que Tchouaméni est dans un rôle où il sait exactement ce qu'il a à faire, et pour moi le foot c'est beaucoup plus facile, alors qu'au match aller, lui non plus. Dans ce milieu, comme on dit, travailleur que Deschamps aime beaucoup, bah même Tchouaméni, pour moi, il n'est pas aidé.
Merci Lucas, merci Chekinza. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette double confrontation entre la France et la Croatie?
Franchement, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'était le jour et la nuit plutôt. le jour et la nuit.
Pas mal.
Non, mais parce que la première confrontation, mais c'était d'une pauvreté. Et moi, là où je suis pas d'accord, moi j'adore la Croatie, c'est une de mes sélections préférées en Europe depuis des années, parce que je les respecte beaucoup, parce que faut vraiment souligner que c'est un petit pays, et de sortir des générations comme ça, il faut vraiment le faire, c'est vraiment incroyable. Mais. Moi, je suis désolé, la Croatie, les gars, c'était pas une énorme équipe au match aller. On peut me dire ce qu'on veut. C'est surtout les faiblesses et la pauvreté et le manque d'idées de l'équipe de France qui a fait jouer la Croatie. Et vu que la Croatie, c'est une équipe qui joue ensemble depuis qu'ils sont tout petits en sélection de jeunes, etc. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent tous par cœur. Forcément, il y a des automatismes et ça crée des brèches, des espaces. Et puis, t'as un joueur comme Modric qui crée des situations par la passe. Forcément, bah, et puis comme Perisic, comme tu l'as dit aussi, qui a fait un bon match, qui était sifflé d'ailleurs par le public de Split, mais parce qu'il est parti.
Ouais. Mais il s'est vite réconcilié avec eux.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que
à
je veux dire, c'est que mais c'était d'une pauvreté. Il y avait rien en fait, comme tu l'as dit, Lucas. C'est que quand t'as un milieu, et Maxence aussi, quand t'as un milieu qui est travailleur mais qui est pas du tout créatif, et t'as pas de solution à la relance, forcément, bah, c'est statique, t'as rien. La défense en plus, elle était mauvaise. Saliba, il faisait un mauvais match. Ou pas Mécano, ça va, mais Saliba, il a fait un mauvais match.
C'est Konaté qui a fait
le match. Oui, non. C'est ça, c'est Konaté.
Saliba était pas mieux, hein, mais la charnière était pas
Konaté, il a été bon hier, ils ont été complémentaires.
Oui, je voulais dire Konaté, ça. Et moi, il y a un joueur aussi, et pourtant je l'aime bien et tout, mais Jules Koundé, ça fait deux matchs où il fait trois fois la même erreur. Et depuis le début de la saison, il l'a fait au moins 5-6 fois avec Barcelone. C'est le fameux ballon sur son côté aérien. Il part à l'abordage, il perd son duel, et derrière, il y a un trou. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se prend le deuxième but, si je ne dis pas de bêtises, puisque oui, ça vient d'un ballon récupéré à droite, ouais. Et puis Perisic...
Non, il se fait battre au duel de la tête.
Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Ah, okay, c'est exactement cette situation-là. D'accord. Il se fait, ça, contre l'Atlético Madrid, il s'est fait avoir deux fois, pareil. Donc voilà, ça fait plusieurs fois, Jules Koundé... où il est un petit peu en méforme, mais bon, on va pas lui tomber dessus particulièrement. Mais l'équipe de France était d'une pauvreté. Et moi, j'ai envie de dire, finalement, on n'était pas forcément surpris. En fait, on était tous déçus, mais on n'était pas surpris parce que moi, j'ai toujours dit ici, Deschamps, pour moi, ça a marqué un tournant depuis le match contre la Suisse à l'Euro 2021 parce qu'il avait voulu tenter quelque chose et essayer un nouveau dispositif. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi et le match, il y a eu des circonstances.
Mais c'est lui qui fait n'importe quoi parce qu'il travaille pas. C'est comme contre la Belgique.
Alors là, moi, je suis d'accord avec toi.
Gros, il tente un truc, mais il l'apprend le matin aux joueurs en disant tiens, toi, tu vas jouer latéral, toi,
c'est
tu vas jouer
piston. Souviens-toi, c'est que il s'est fait défoncer quoi. Parce qu'en fait, il a mis un dispositif pour faire genre regardez, je teste un nouveau truc.
Je mets des mecs offensifs, regardez, machin.
Mais puis t'as l'anglais qui part à la pêche contre Seferovic, la première action, donc ça tue tout ton truc, etc. Comme t'as dit, il y a rien qui est travaillé, il y avait aucun schéma de passe. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La France s'est fait sortir. Et depuis ce jour-là, il bétonne. Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, là où j'ai été content et là où c'est triste à la fois, c'est que du coup, tu perds 2-0 contre la Croatie. 4 jours plus tard, t'as un match et c'est là où il se dit il faut gagner, mine de rien. Il faut gagner. Et donc là, la composition.
Par plus de deux buts,
parce qu'il y avait plutôt sous la gorge. Voilà,
exactement. Et la composition, elle était vraiment, comme tu as dit, Lucas, moi j'étais agréablement surpris, comme nous tous, parce qu'on a vu 4 joueurs offensifs. Au début, j'aurais préféré qu'ils mettent Doué, parce que je voulais vraiment voir l'attaque parisienne avec Mbappé en plus. Mais finalement, il a mis Olise. Et là, la différence aussi, c'est que tu avais l'impression que sa causerie, c'était les gars devant, faites ce que vous voulez.
Et ça a toujours été ça, même avec Griezmann, c'était déjà ça.
Ça a été ça, mais que là, il leur a laissé une liberté offensive que je trouve qu'avant, ils n'avaient pas. Parce que tu vois que Olise, il permutait énormément avec Dembélé qui était en 10. Des fois, Mbappé venait décrocher. Barcola, il était un peu plus isolé sur le côté gauche, mais sinon, les trois, ils permutaient énormément. Et Mbappé... On viendra peut-être sur le match de Mbappé tout à l'heure. Ça vous, je parle beaucoup, là. On viendra peut-être sur le match de Mbappé tout à l'heure,
c'est
mais Mbappé...
Ça fait 7 minutes, mais
je terminerai là-dessus. Mais que Mbappé, peut-être qu'il a pas trop été en réussite, mais en tout cas dans les intentions, au moins il s'est montré.
Même défensivement dans le pressing, voilà. Les mecs ont fait dans vraiment le pressing, les efforts. C'est dommage de devoir le souligner et de devoir dire bravo Mbappé a fait plus de 5 km dans le match. Mais la vérité c'est qu'il l'a fait et donc c'est bien et il faut le dire quand c'est normal en tout cas de le faire.
Mais quelle inefficacité Mbappé.
13 frappes en 2 matchs.
Et sur le match aller aussi.
Mais c'est dans les intentions, il revient et tout.
Après, il fait le minimum syndical. Mais c'est. Voilà, on a.
Le minimum syndical, c'est au moins un but sur les deux.
Non, mais je veux dire dans l'investissement. Parce qu'on a vu des matchs en équipe de France où il faisait même pas ça.
Oui, oui, oui. Dans la période où il revenait, dans le contexte dans lequel il revenait, il était obligé de le faire. C'est la moindre des choses. S'il n'apparaît pas comme le sauveur. Comme en marquant un doublé à l'aller ou au retour, je sais pas, c'est la moindre des choses.
Ah non, mais tu prêches un très convaincu là-dessus.
Au moins, ça c'est sûr, mais nous tous, je pense. Mais au moins, c'est dans l'attitude, voilà. Et puis même dans. Moi, ce que j'ai surtout aimé dans ce match, c'est que je trouve, ce que je me suis dit avant et tout, je discutais, j'ai dit, en fait, le problème de cette équipe, c'est que la preuve, le rugby fait des meilleures audiences, etc. Le problème de cette équipe, c'est qu'elle raconte plus aucune histoire. C'est que les joueurs ne sont plus intéressants. T'as l'impression qu'ils sont plus investis.
Mais le rugby monte en puissance aussi.
Oui.
Faut le dire, le 15 de France monte en puissance aussi.
Oui, mais le football, normalement, c'est censé toujours être populaire.
Mais c'est avec des matchs comme hier que tu vas relancer le truc.
Exactement.
Parce que les gens vont vouloir revoir Olise. Ils vont dire, il a été super fort.
Et je trouve, déjà,
Dembélé, machin.
Avec Doué et tout ça, une nouvelle génération.
Juste un petit truc, il faut savoir aussi que l'équipe de France, même quand c'est sur TF1, il y a beaucoup de gens qui peuvent le regarder sur des sites, sur Telegram ou sur des sites.
Oui, après, il y a aussi le fait que le rugby, c'est le week-end à 17h. Samedi 17h, c'est plus facile que le jeudi à 21h quand c'est un match en Croatie qui fait un peu moins envie, un peu moins rêvé.
Ligue des Nations, c'est une compétition comme l'Euro.
Le football restera le sport le plus populaire, mais là moi où je trouvais c'est qu'il y avait une sorte de désamour ou surtout d'indifférence avec cette équipe en fait. Et pour moi ça passe par Deschamps, il faut changer de sélectionneur pour raconter une nouvelle histoire et ouvrir une nouvelle page. Mais au-delà de ça, je trouve que le match d'hier, même dans l'ambiance du stade de France, il était plein, ça faisait très longtemps que la France n'avait pas joué dans ce stade. La Marseillaise, elle était vraiment bien au début du match et tout,
les fumigènes, les trucs,
t'avais l'impression qu'il se passait un truc et moi je trouve ça bien que qu'il j'ai eu l'impression, en tout cas, ou j'espère, que c'était une sorte de vent nouveau et que la qualification, là, ici, à domicile, au tir au but, bah, elle peut ouvrir une.
Ça, j'y crois pas, par contre. Parce que ça va être tué dans l'œuf au prochain match. Si t'avais eu 0-0 à l'aller en Croatie,
si tu bats l'Espagne,
il aurait commencé son truc avec ses 3 milieux, ses 3-6, en disant il y a eu 0-0, on va conserver, et puis on espère que Mbappé va accélérer une fois et ça va le faire.
Possible.
Et contre l'Espagne, il en mettra pas les 4. Il mettra Tchouaméni, Manu Koné avec un troisième, Rabiot, je pense.
Non,
et t'auras ton milieu à 3 bien bosseurs, et ils n'auront pas le droit de.
Tu crois pas?
Non, je crois pas. Parce que s'il fait cette erreur avec l'Espagne, on va se faire éteindre.
Pour Deschamps,
vraiment, c'est quelqu'un qui est dans la répétition. Vous savez que Deschamps, c'est en fait, c'est un tacticien. Deschamps, c'est un peu comme.
C'est un meneur d'homme.
Bon, un peu dit, mais non, c'est dans la tactique.
Il met quoi en place tactiquement?
Il met rien.
Il met rien en place. Il met les mecs sur le terrain. Il a le meilleur joueur du monde.
Faites-vous pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Quand il prend l'équipe de France, c'est pas cette même équipe. Il a construit, il a façonné à sa manière. Oui, il a façonné à sa manière. Par moments, il a beaucoup essayé parce que. Il a essayé le 4-2-3-1, après il a essayé le 4-3-3, le 4-4-2 en fait.
C'est quoi sa patte tactique, c'est quoi?
Il joue défensif.
Ouais, oui, tout le temps, mais il a tout le temps été comme ça. Même
c'est pas une patte tactique de jouer défensif.
Ça veut tout rien dire.
Ça veut rien dire, jouer défensif. Mais quoi, il met une défense haute, il joue leur jeu, il fait quoi?
Simeone, il joue défensif, mais tu vois sa tactique.
Exactement.
Tu sais sa tactique.
Mais Deschamps, il a un petit peu Ancelotti où il va beaucoup s'adapter à son effectif. Et après, c'est vrai que c'est bas, sa philosophie, elle est italienne des années 90. Il va mettre un jeu défensif avec un bloc qui est bas, etc. Avec des mecs rapides devant, pas très créatifs, plutôt physiques. Bah, c'est ça le jeu Deschamps.
Mais donc tactiquement, il propose rien.
On n'a pas aucune innovation.
Il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de schéma préférentiel, il n'y a pas grand chose.
Si, il y en avait, je crois qu'à la Coupe du Monde 2018, c'était autre chose en fait.
Mais parce que tu avais
la balle à Griezmann, Mbappé, ils priaient pour que ça fasse.
Et parce que t'avais des individualités qui étaient incroyables. T'avais Pogba et N'Golo Kanté qui surnageaient. T'avais Matuidi qui faisait du dépassement de fonction.
Pogba, il envoyait des passes à 50 mètres sur Mbappé qui courait.
Là, d'un coup, quand t'as Fofana à la place de Pogba,
gars,
c'est
on gagne pas une Coupe du Monde comme ça. Vous exagérez un petit peu quand même.
Le match contre la Belgique,
non,
je
vois
comment on gagne comme ça.
En tout cas, je crois que vraiment, je crois que vous êtes un peu dans la critique.
On les a éteints tactiquement
avec Deschamps parce qu'après tout ce qu'il a donné,
franchement, c'est inaudible. Là, depuis tout à l'heure, je pense.
Parce que vous êtes un peu sévère avec lui.
Attends. On s'écoute, vas-y, je t'en prie.
Je crois que c'est un peu dur avec Deschamps parce que ouais, même si tout n'est pas vraiment carré comme on dit dans l'ensemble, mais il y a eu de bonnes choses vraiment si ces années passent en équipe de France. Oui, il y a eu de bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes. Depuis 2021, on est un peu dans la même spirale. Voilà, ça progresse moins, mais je crois que vraiment, c'est quelqu'un qui a fait le taf. Voilà, parce qu'il a amené cette équipe où on ne pensait pas emmener. Oui, bien sûr, parce que quand tu regardes le passé de l'équipe de France, personne n'y croyait qu'en 2018, ils allaient ramener la coupe. Après, vraiment, à l'Euro 2016.
Avec la génération de Martien que tu as, tu es obligé de ramener un titre à un moment.
Non, mais ce qu'il fait
avec
2016,
dans des top clubs. Il a fait 2016,
cette finale vraiment en France, certains n'y croyaient pas, même si vraiment il avait la génération pour. Il y en a eu des générations qui ont été très bonnes par le passé.
T'as jamais eu Mbappé, il y en avait
la génération 87 où t'avais Nasri qui était au sommet de son art, t'avais Ben Affa qui était tonitruant.
Non, c'était en 2010.
Vous me parlez de la génération Zidane, d'accord. Mais
la génération 87.
Attends, il dit génération 87, année 87.
Je sais.
Génération 87.
Nasri, Benzema.
On va pas comparer ça avec
génération 87. Ils étaient très bons en fait. Ils étaient très bons dans l'ensemble, en fait. Et après, cette génération, ils sont montés ensemble en équipe de France. Mais malgré tout ça, il n'y a pas eu le résultat qu'on pensait. Il y a eu des problèmes et tout ça. Bah oui, la génération 87, il y a eu des problèmes après.
Oui, bien sûr. Parce que c'était en 2010 que
ils étaient
jeunes.
Mais même en club, ils n'ont jamais fait le quart de la moitié de l'Euro 2012
pour eux. Avec Blanc, ça a été une catastrophe.
Voilà, l'Euro 2012, quand tu t'imagines qu'il y avait Menez qui était très bon, il y avait Ben Affa. Lui qui était bon, en fait. Lui, mais Menez, quand même, on ne dira pas que
ça n'a jamais été le niveau d'un Griezmann. J'aime beaucoup Jérémy Menez. J'adore
Menez.
Pour Jérémy Menez, il n'a pas le niveau d'un Griezmann. Là, vraiment. Et moi, je pense qu'on est un peu sévère. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Deschamps, dans un premier temps, il reprend une équipe de France qui a été maltraitée sous Domenech et qui s'était à peine remise sous Blanc, mais avec des gros soucis. Effectivement, il la ramène à un standing qui lui ressemble le plus, avec en point d'orgue la victoire en 2018. Mais pour moi, cet Euro 2020-2021, ça... Il y a un truc qui s'est cassé, comme dit Alexandre, ça fait quand même 3 ans qu'on ne voit pas de football. Et là, moi, juste que j'espère que tu as raison et que le match d'hier soir l'a fait réfléchir, parce qu'il ne faut pas oublier que hier, il nous a mis Olysée. Comme disait Alexandre, il aurait pu nous mettre Désiré Doué. Et derrière, il y a Akliouche et Ryan Cherki qui tapent fortement à la porte. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs qui pourraient potentiellement occuper un poste de numéro 10 et bien l'occuper en équipe de France.
Et c'est exactement ça qui nous manque.
Et donc, et il faut absolument prendre cette spécificité du moment où on a abondance de biens sur des joueurs créatifs. Il faut les sélectionner, tout simplement.
Mais pour moi, même avant 2018, Deschamps, ça propose pas de jeu. On gagne la Coupe du Monde 2018.
Non.
Tu joues avec Matuidi et les gauches.
C'est trois
offensifs.
Ça, c'est tactique, par exemple.
Donc, Giroud,
c'est pas une tactique qui te plaît. Et même, on parlait de France-Belgique.
Là, je suis d'accord avec lui.
Pogba qui redescend aider Benjamin Pavard sur chaque ballon et que Hazard il passe plus de deuxième mi-temps, c'est un réajustement tactique, tu vois.
Oui, mais c'est pas une cassure dans le jeu qui a eu lieu.
Il fait des choses tactiques. Il observe les jeux. Mais Deschamps, effectivement, c'est toujours un pragmatique. Il va jamais, comment dire,
c'est pas
ambitieux.
Quelqu'un qui innove, c'est pas quelqu'un qui innove.
Mais s'adapte à l'adversaire.
Au-delà d'innover, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va imposer son jeu, qui va dire voilà, on a telle philosophie, on est super fort, on va leur marcher dessus. Il dit non, on va s'adapter exactement. Et ce que ça nous donne, c'est toujours un football défensif, mais qui est un peu caricatural depuis l'échec de l'Euro 2021. Mais
on verra quel club se penchera sur Deschamps après 2026. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde.
Et même lui, il voudra pas. Mais
Didier Deschamps, en tout cas, disait que il était respecté, il était plus respecté à l'international
qu'en France.
Ouais, je pense que le Barça, City, se battront pour l'avoir.
Non, c'est normal.
Non, je crois pas. C'est plus la joue.
Non, excusez-moi, mais par exemple, des personnes comme moi, je pense à Southgate, Angleterre.
Pitié.
Non, mais attendez. Attendez.
Là, c'est encore pire.
Oui, d'accord. Ouais. C'est un peu le même
profil.
Le même profil, un peu.
Oui.
Mais gestion des hommes en moins. La gestion des hommes en moins.
Non, et les titres en moins. Et Deschamps, les parcours en club qu'il a eu avant. Ouais, mais
c'est les titres en moins. Non, et puis,
il y a deux finales Southgate, mais c'est des finales perdues.
C'est exactement ça. C'est du coup les Anglais. Vous imaginez l'équipe qu'ils ont. Franchement, sur le papier, l'équipe anglaise, je pense qu'elle est meilleure que celle de la France.
Moi, je pense pas.
Je sais pas. Défensivement, je les vois moins forts quand même.
Je sais pas.
Si défensivement, c'est fort, t'as MX, t'en as plusieurs en fait.
Ah ouais, ce que t'as vu hier là, pour moi, Saliba et Upamecano, ils ont pas ça. Dans la complémentarité et dans la force des
Ménian, ils ont pas ça. Ils ont pas un Ménian.
C'est la meilleure charnière. Comme t'as dit, ils ont un Jordan Pickford qui est très bon aussi.
Mais Pickford, c'est pas Ménian.
Un peu de respect sur Mike Ménian.
Ils n'ont pas le dernier rempart qui est Ménian.
Pickford, il est 17ème en PL là, il joue la relégation.
Ils n'ont pas le dernier rempart qui est Mike Ménian. Mais vraiment défensivement, c'est très fort aussi. En fait,
là, ils ont Gueye comme ça.
Bah oui.
Non, c'est vrai. Non. Ouais,
mais
comme
Gueye, bon
comme
joueur,
les Italiens disaient, en fait, tu sais,
bien,
la défense, c'est quoi
pas,
tu peux avoir un gardien moyen, mais si tu as une défense qui est très bonne, tu encaisses peu, en fait. C'est-à-dire, plus le gardien il n'est pas mis en évidence, plus la défense, elle est solide, en fait. C'est ça le réel atout défensif. C'est-à-dire d'avoir des gars qui peuvent vraiment se la buter pour toi de telle façon que le gardien ne soit pas mis en évidence. Mais c'est ça en fait, c'est ça.
Merci Cheikh Kenza. On va juste poursuivre, hein. on va continuer. Il y a eu l'Espagne qui ont fait match nul 2-2 face aux Basques, hein, avant de les affronter à domicile. Ça c'était au match aller, match retour, même score. Et ça va aux prolongations 3-3 et ça va jusqu'au tir au but. C'est là où le ton est donné et la décision est donnée aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match et de cette double confrontation?
Franchement, déjà le but de Lamine Yamal, est-ce que vous l'avez vu?
Magnifique.
Mais c'est ce petit,
il a de l'or dans les pieds. Oui.
Il a vraiment de l'or dans les pieds. Mais par contre, l'Espagne, franchement, c'est une énorme génération. Hein, honnêtement, bon là, ils ont un petit peu entre guillemets calé, on va dire, contre les Pays-Bas. Mais c'est jamais simple en vrai de battre les Pays-Bas. En plus, ils reviennent bien ces derniers temps. Mais honnêtement, c'est un sacré candidat sur quasi toutes les prochaines compétitions internationales qui vont arriver. Ils ont l'Espagne.
Je pense que c'était un peu un épiphénomène ce qu'on a vu à l'Euro. Comme l'Italie il y a 4 ans. Et je pense qu'Espagne, il y a une bonne génération.
L'Italie il y a 4 ans.
Mais de là regagner un peu plus fort. Mais de là regagner des titres dans un.
Non.
Ah, moi, j'y crois pas.
Ils ont une nouvelle génération qui arrive en plus avec le défenseur qu'ils ont récupéré, Huissen.
Huissen, Kubarsi.
Les mecs, ils ont 17-18 ans.
De toute façon, généralement, quand le Barça va bien, l'Espagne va bien. Et c'est l'histoire qui le montre. Et en vérité, là, il y a une génération de malades qui arrive et ils sont tous très jeunes. N'oublie pas qu'ils ont tous moins de 21 ans.
Sur les côtés, Yamal, William, ça va durer encore 10 ans cette histoire. Il leur manque peut-être
un avant-centre. Mais le milieu de terrain, c'est n'importe quoi. La défense, c'est n'importe quoi aussi.
Non, la défense, je crois qu'avec Asensio aussi, il est plus
stabilisé. T'as Asensio aussi qui est là et tout. T'as les latéraux, ça va, c'est correct. Et t'as le gardien Raya qui est bon. Et avec
Unai Simon.
Franchement, l'Espagne, c'est très très solide.
Et puis surtout, il y a une idée. L'Espagne, t'allumes ta télé, tu sais, même sans regarder la compo,
tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce que tu vas voir, tu sais qu'il y aura du jeu, tu sais que l'équipe va.
Et puis lui, c'est la Fuente, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime le beau jeu et tout ça.
Mais tous les coachs de l'Espagne, ils aiment le beau jeu.
C'est quelqu'un
Del Bosque, il aimait pas le beau jeu.
Del Bosque, il aimait pas le beau jeu. Oui, mais quand même, Del Bosque, c'était quelqu'un qui avait la culture de la gagne, en fait.
Ah oui, oui, ça, ouais, oui.
Donc, du coup, c'était quelqu'un un peu comme Deschamps, meneur d'hommes qui laissait les joueurs faire ce qu'ils veulent, l'esprit un peu créatif comme Ancelotti. Donc. Mais après, avec
créatif comme Ancelotti, ça...
Comme on dit créatif, dans le sens où Ancelotti, il veut la créativité du joueur.
Il ne bride pas, quoi. Mais
oui, voilà, c'est quelqu'un qui veut la créativité.
Ça, c'est les mecs qui n'ont pas d'idées offensives qui disent... Je suis d'accord. Moi, demain, je suis coach de Mbappé, Dembélé, je leur dis, les gars, mettez-vous quand vous avez la balle, soyez créatifs.
Allez-y. Il n'y a pas de schéma de passe, rien.
Tu fais rien.
C'est combien de champions, Ancelotti?
Non mais Lucas,
gars, pas de caricature comme
si ça. Tu veux rentrer dans ça, okay,
mais Zidane, c'est 3 Ligues des Champions, c'est un énorme coach. Zidane, t'es sûr que c'est un énorme coach?
C'est un tacticien, Zidane.
Ancelotti, c'est 5 Ligues des Champions,
c'est
pareil.
Ces gens-là ont d'autres qualités. Ça veut dire que c'est un meneur exceptionnel.
Bien sûr,
on sait que notamment Ancelotti tient son vestiaire comme personne. Donc ça veut dire que lui peut dire, débrouillez-vous. Toi, tu tiendrais pas son vestiaire comme lui le tient.
Bien sûr, j'ai le droit de trouver ça limité. J'ai le droit de trouver ça limité quand t'es coach du Real, de l'équipe de France, de n'importe quel gros club, grosse section.
T'as autant de joueurs à disposition. Position comme
d'avoir
ça,
comme seule idée offensive, les gars, amusez-vous, libérez-vous, soyez créatifs, c'est quand même assez limité. Après, certes, mais il a gagné des champions, il ne gagnerait jamais, mais enfin, là, on est là pour dire ce qu'on en pense.
Non, bien sûr,
moi, j'ai
bien
le droit de préférer des coachs qui ont des idées, qui ont des choses à valoriser.
Dans l'idée, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'Ancelotti, mine de rien, il arrive quand même à faire jouer ses équipes. On sait qu'il n'a pas une philosophie qui est transposable au FC Barcelone, par exemple, mais moi, je me rappelle du PSG d'Ancelotti, ça ressemblait à aucun PSG que j'avais vu à l'époque. Et pourtant, c'est pas un entraîneur, comme tu dis, qui est très tacticien, mais en fait, il va mettre ses joueurs dans des conditions qui font faire qu'ils vont pouvoir s'exprimer.
Mais quand tu l'as mis à Everton sans les individualités très fortes, ça a été très dur parce qu'il n'avait pas les mecs. Ils disaient soyez créatifs, les mecs ils n'avaient pas les pieds. Donc,
et après, il fait une saison au Real, il remporte la décennie.
Exactement, mais parce qu'il avait une équipe de tueurs à gages.
Ouais, sauf qu'avant c'était des demi-finales en pagaille et personne n'arrivait à passer le step. Et lui, il a écrasé le mur de fer et après il a lancé ce qui a fait la dictature de Zidane. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais effectivement, on peut se plaindre des coachs. Surtout, en fait, ce qui nous frustre aussi, je pense, c'est parce qu'on vit sous l'ère Deschamps aussi et qu'en fait on a vu beaucoup, beaucoup de mauvais football. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être un petit rejet par rapport à des coachs qui. Ont pas beaucoup d'ambition dans le jeu, mais ça dépend, je pense, comment c'est fait aussi. Et comme je disais, je pense que Deschamps, c'est un peu une caricature de lui-même. Et on peut, sans être un apôtre du jeu à la barcelonaise, réussir à diriger des équipes cohérentes et qui ont de l'idée et qui savent jouer ensemble.
Bien sûr. Merci Lucas, excuse-moi, j'ai juste pas relancé le débat sur l'équipe de France. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on était basé sur l'Espagne. L'Espagne, alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé réellement de... Chez Kenza, tu t'es exprimé. Alexandre, tu t'es exprimé. Lucas, à moitié,
sur l'équipe de France,
je te laisse terminer un peu l'Espagne. Sur l'Espagne.
Sur l'Espagne, ils ont eu le mérite, quand les Pays-Bas sont revenus à 2-2, de ne pas se laisser, de pas sombrer, entre guillemets. Et Lamine Yamal, comme tu l'as dit, qui ne fait pas un énorme match par ailleurs, qui perd beaucoup de ballons, qui a été un peu plus en difficulté. Il marque un but absolument génial. C'est vrai que quand ils ne sont pas au top, il y a toujours les individualités qui les sauvent. Et en même temps, par exemple, en attaque, Oyarzabal, qui n'est pas non plus le plus grand attaquant de tous les temps, il combine super bien avec Williams et avec Yamal. Donc effectivement, je pense que moi, je ne vois pas, contrairement à Alexandre, l'Espagne être le grand favori des prochaines compétitions. Mais c'est sûr que
ça fait peur quand même, non ?
Toute l'équipe est super cohérente. Je pense qu'il y a du talent, c'est juste que je pense qu'il y a plus talentueux qu'eux, c'est tout.
Merci, Lucas. Maxence ?
Moi, je pense que c'est sur le match aller qu'ils sont vraiment passés à travers, parce que le match aller, ils égalisent à la toute fin par Merino, je crois. Ouais. Et ils sont menés 2-1 jusqu'au bout. Ils démarrent très, très bien le match avec un but très tôt dans les 10 premières minutes. Et après, ils s'éteignent de manière assez inexplicable avec les Pays-Bas qui prennent le match à leur compte. Pays-Bas qui est d'ailleurs une belle équipe aussi, avec moins de qualité individuelle, mais collectivement, ça propose du très, très lourd. Et hier, on a vu un match popcorn. Ça partait dans tous les sens. 3-3, c'était top. Il y avait du talent des deux côtés. Mais oui, enfin, sur l'avenir, je miserais plus sur l'Espagne que sur les Pays-Bas. Il y a quand même un petit gap de qualité individuelle. Non, mais on est sur une mauvaise génération des Pays-Bas. Après, ça peut repartir. Hein, mais dans les années...
Moi, je pense que ça repart, d'ailleurs. Avec
ça va repartir.
Depay, Renders...
Noah Lang, machin.
Franchement.
Non, pour moi, ça, c'est quand même en dessous.
Mais c'est quand même en dessous du top niveau gratin européen, Yamal, etc. Enfin, on est en dessous Pedri, tout ça.
Mais il y a plus d'expérience de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils auront posé des difficultés, je pense, sur la double confrontation.
Ah, l'expérience du côté de l'Espagne, il y a l'euro, mais il n'y a pas grand chose d'autre.
Non,
hein.
C'est pour ça qu'il y a plus d'expérience du côté, ah, des,
du côté des Pays-Bas.
Et c'est pour ça
que... Ah, des Pays-Bas, tu veux
oui,
dire
du ouais, côté ouais. des Pays-Bas.
Ouais, ouais.
C'est ça. Et ça aussi, ça compte énormément.
Parce que t'as qui d'expérience chez les Pays-Bas? C'est pas hyper expérimenté.
Non, mais t'as déjà Van Dijk, mais.
Malen.
Sinon, ouais. au milieu, ouais, ouais, c'est pas de la top expérience.
Oui, c'est plus
tu
le
vois,
coach,
c'est...
même le coach, il est plus expérimenté.
Ah, Coman, oui, ça, il en a vu, il en a
Coman,
vu beaucoup.
Voilà,
Coman,
il en a vu beaucoup.
Coman, il sert tous les bancs d'Europe, il tourne.
Du coup, voilà pour l'Espagne. On a aussi vu un autre match popcorn, comme tu le dis, Maxence. Le Portugal qui se sont imposés 3-2, ça a été chaud pour les Portugais. Hein. On a pu voir Ruben Dias qui a fait une grosse boulette. En fin de match, ça a failli leur coûter d'ailleurs ça a failli leur coûter le match carrément, avec une très belle rentrée de Trincao, hein, Trincao qui a fait une différence avec un doublé. Et franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé du match des Portugais, parce qu'ils avaient perdu au match aller, hein, qu'ils se sont fait dominer au match aller par le Danemark, et Danemark qui ont gagné que 1-0, et c'était là le problème, parce qu'à l'aller, Danemark aurait pu gagner de deux buts assez aisément, et je pense que ce qui, c'est vraiment ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, et le Portugal qui ont réussi à renverser la tendance au match retour avec un pénalty loupé de Cristiano Ronaldo, un but ensuite inscrit à la 72e minute, et on a pu voir aussi... Il y avait, c'était, je sais pas si vous avez pu regarder le match en détail, mais c'était, à un moment, c'était que tout pour l'attaque et il y avait deux joueurs en défense. C'était ça. Ils balançaient les, alors qu'on était qu'à la 70e minute, ils balançaient les ballons devant et il y avait que deux défenseurs. C'est pour ça que
perdre,
quand Ruben Dias il perd le ballon, ben si, il est en train de mener à ce moment-là. Ruben Dias il perd le ballon. Tu t'as perdu que 1-0.
Il voulait mettre le quatrième un peu trop.
Il voulait mettre le quatrième avant la mi-temps. Et c'était ça a failli leur coûter d'ailleurs.
Jusqu'à quand Cristiano va prendre en otage la sélection?
Je crois que c'est la question qu'on se pose.
La question, je veux
le
dire.
Le mec, il a 40
j'en
ans.
Peux plus,
il prend encore les pénaux. Capitaine, il a deux des meilleurs tireurs de
pénalty
au monde.
Vitinha, Bruno
Fernandes. Vitinha, Bruno, quand loupe aucun, qu'il les mette tous dans leur club respectif. Et il est toujours à prendre en otage cette sélection.
Non,
alors que.
Excuse-moi, Maxence, je peux pas te laisser.
Très honnêtement,
excuse-moi. Mais j'ai pas besoin que vous m'excusez. Mais toi, tu peux pas. Non, excusez-moi, mais vous pouvez pas me dire ça. Chris, vous pouvez me dire qu'il y a un meilleur tireur de pénalty que Cristiano Ronaldo?
Bah oui.
Non,
ouais,
je crois. Quoi? Sérieusement?
Aujourd'hui là?
Quoi? Sérieusement? Avec le taux de réussite que Cristiano Ronaldo a?
Ah bah regarde,
il a un meilleur taux de réussite que Neymar. Il a un meilleur taux de réussite que Messi. Vas-y, tu peux vérifier s'il te plaît les stats.
On va fact-checker rapidement.
D'accord, vas-y. Non, parce que si je te dis ça, je sais de quoi je te parle. Ils ont un meilleur stat.
Même dans le jeu,
il a les meilleurs stats. Par le niveau pénalty, c'est le numéro 1. Il a les meilleurs stats.
Je pense pas, mais on va voir.
Je pense pas, mais il en a tiré 100 fois plus.
En termes de ratio, il a. Non, mais. Attends, excuse-moi, mais quelqu'un qui va tirer 1000 pénaltys, il peut se louper 100 fois sur 1000, que quelqu'un qui va en tirer 50, il va se louper 2 fois. Donc sur le ratio,
oui, bien sûr, bien
il a
sûr,
un meilleur. Vous pouvez... Non mais excusez-moi, on parle de Cristiano Ronaldo quand même. Excusez-moi,
mais c'est ça le problème.
Mettez un minimum de respect.
C'est ça,
les pénaltys, non, il y a pas de problème. Tu vois, quand t'arrives, tu me dis.
Mais il l'a raté, celui-là, c'est ça le problème.
Oui, il l'a raté. Il y a pas de souci. Il a su marquer derrière.
Oui.
Mais c'est pas ça le problème.
Il a
pas
raté
là
combien
le problème.
D'occasions.
En fait, non. Je reviens juste sur le fait du penalty où il me dit que, en gros, il y a des meilleurs tireurs de penalty. Excusez-moi, mais les gars, si vous avez vu, que ça soit même en termes de pression.
Cristiano, 84% de réussite au tir au but. Vitinha, 100%. Il a jamais raté un penalty de sa carrière.
Mais
il en a jamais raté.
Non, mais excuse-moi, c'est
il
comme
en a
si
jamais
tu...
raté. Hein.
D'accord.
Dit, c'est
d'accord. Bah, ok. Upamecano a un meilleur ratio que Cristiano Ronaldo. C'est vrai. Excuse-moi.
Mais Upamecano, il est pas en club.
Non, mais excuse-moi. Non, mais il en a tiré un, mais il l'a mis, donc il a 100%.
On va regarder Neymar.
Tu peux continuer, s'il te plaît.
On va regarder
Neymar. En termes de tir, mais tu regardes en termes de pénalty marqué sur le nombre.
Mais il n'est pas sur le terrain que pour tirer
les
pénalty.
Non, je dis pas ça.
Parle de sa prestation globale.
Non,
et en fait...
moi je revenais sur ça. Mais d'accord, j'ai juste dit que niveau pénalty, parce qu'il
admettons.
A dit il a pris
okay,
pénalty.
Ok, passons les pénalty.
Il a laissé deux autres personnes. Excusez-moi.
Ok, admettons que tu aies raison. Admettons que tu aies raison. Franchement, hier. Heureusement qu'il marque son but.
Bruno est à 91%.
Merci.
Au passage.
Il
en a tiré 70 ou 80.
D'accord. Et Cristiano Ronaldo, il en a tiré combien?
Il en a tiré 200.
C'est normal.
Non,
mais
c'est normal, il a 10 ans
mais,
plus.
Non,
il a 15 ans
mais,
plus.
Il a 40 piges.
Non,
encore qui tire les pénaux, les gars.
Non, mais excusez-moi, mais à 200 pénalty, si quelqu'un
a
meilleur ratio,
je
voudrais bien prendre.
Je crois qu'en mathématiques,
on fait rentrer Zizou alors. Faites rentrer Zizou en équipe de France.
Il
tirera les pénaux, les gars.
Mais oui.
Non, mais
je vous dis juste qu'en termes de pénalty, parce que moi, quand j'ai cette image de Cristiano Ronaldo, on le surnomme même Penaldo, entre guillemets.
Mais parce qu'il en avait beaucoup. Il avait de la masse.
Non, mais il a un taux de réussite. Non, mais arrêtez, les gars, 90e,
mais on n'a jamais
90,
dit
plus temps additionnel dans des matchs super chauds. Il y a pas
mais
tout le monde
qui
a.
On n'a pas dit qu'ils savaient pas tirer les pénaltys, Cristiano Ronaldo.
C'est
on
ce
a
qu'il
juste
dit,
dit
Maxence.
Mais non,
j'ai pas dit ça.
C'est ce que j'ai dit. On a dit qu'actuellement, il y a des. Mais oui.
Il en rate un très important à l'Euro contre la Slovaquie en 8e.
Merci.
Il en rerate un hier.
Souvenez-vous en 2016 contre l'Autriche.
La question se pose. La question se pose. Et autant que son utilisation dans cette équipe, c'est pas possible avec tout le talent qu'il y a de se baser sur un mec qui a 40 ans aussi fort.
C'est ça.
A-t-il été ? Il a été extraordinaire.
A-t-il été ?
Mais aujourd'hui, on parle d'un neuf qui joue en Arabie Saoudite.
C'est ça. C'est qu'en fait,
qui a 40 ans, qui avance plus, il faut se dire, faut
et
se dire
qui vampirise les ballons.
Qui vampirise tous les ballons parce que les mecs, ils ont peur de prendre des initiatives.
Et ils en ont marre. Et tu vois le langage corporel. Regardez le langage corporel des Portugais.
Et quand
il faut juste le regarder.
Et aujourd'hui, tu peux pas gagner une grande compétition avec un mec de 40 ans devant. C'est peu importe qui c'est. Ce n'est pas possible. Et il va continuer jusqu'au bout parce que Portugal a la Coupe du Monde en 2030.
En tout cas, en 2022, il est mis sur le banc et Gonçalo Ramos, il met triplé contre la Suisse.
Mais Gonçalo Ramos, on le revoit plus. Il a fait une erreur.
Il a marqué hier.
Oui, oui. Ouais, il est rentré à la 92e, je crois, et il a marqué dans le prolongue.
Non, mais Eladj, en fait, c'est ça qu'il faut que les gens ils sortent de leur esprit. Mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est là, on tire sur Ronaldo, on déteste, il est nul, machin.
Mais ça n'a rien
on
à voir.
On
n'a
jamais
avec
dit ça.
Ça.
Cristiano Ronaldo, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n'y a pas de souci. Mais attends, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, Cristiano Ronaldo, il a 40 ans et il joue en Arabie Saoudite. Le Portugal, ils ont une des meilleures générations du monde ou d'Europe. Et actuellement, ils mettent qui en numéro 9 ? Cristiano Ronaldo. Et en fait, le problème aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut juste allumer sa télévision et regarder les matchs et juste regarder et constater ce qu'on voit. Cristiano Ronaldo, comme ils ont dit, il vampirise les ballons. Il a du mal des fois à faire une remise en une touche. Son langage corporel, il est compliqué et les joueurs, ils ne prennent pas d'initiative. Et il prend en otage la sélection. La preuve, Fernando Santos, il avait peur de le sortir. Fernando Santos, hein, le mec, il a du caractère, hein. Il avait peur de le sortir.
Il l'a sorti une fois, c'était deux matchs avant de partir.
C'était terminé. Il l'a sorti une fois en Coupe du Monde, triplé, et le match d'après, parce qu'ils sont qualifiés en partie grâce à Gonçalo Ramos, ils mettent le match d'après, ils se font sortir par le Maroc. Je dis pas que tout est de la faute de Cristiano, loin de là. Mais au bout d'un moment, il faut juste voir et se poser les questions, le peuple portugais, les observateurs de foot et le sélectionneur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux de jouer avec Cristiano Ronaldo en pointe ou sans Cristiano Ronaldo en pointe, en voyant ce que t'as sur le banc? Qu'est-ce qui est mieux?
Tu dis pareil pour Messi en 10 en Argentine ou pas? Juste
mais
pour savoir.
Parce que regarde les matchs, juste. Est-ce que tu peux regarder les matchs ou quoi? Est-ce que tu peux regarder les matchs?
C'était juste pour savoir.
Moi, c'est pareil.
Moi, je dis Messi 2026, si à la tête de l'Argentine, ce sera aussi compliqué.
Alors,
que
je suis d'accord avec toi.
Je suis totalement d'accord.
Si en 2026, je vois que Messi, il est encore là et qu'il avance plus, c'est n'importe quoi. Par contre, si je vois que Messi, il est là, il se la bute pour son pays et il fait encore des passes décisives. Oui, il a pas joué là actuellement. Il fait des passes décisives, il marque des coups francs, il truc. Mais si Cristiano Ronaldo, il faisait la même chose, mais j'aurais dit la même chose. Parce que Portugal-Espagne, par exemple, le match où il met le coup franc, etc. Mais il n'y a rien à dire, puisque le gars porte son équipe.
Après, c'était il y a 6 ans, ça.
C'était il y a 6 ans, c'est ce que je te dis.
Il n'y a pas 40.
Ça change tout. Si je vois que c'est un poids pour son équipe, au bout d'un moment, t'es argentin, tu te poses les bonnes questions. Et j'aurais dit la même chose.
Très bien, c'est noté.
Mais bien sûr.
Alexandre, tu peux...
Oui.
T'as fini
j'ai
sur
fini,
le Portugal.
J'ai fini, parce qu'au bout d'un moment, d'accord. Il faut voir les termes. Il faut voir les matchs, il faut regarder les matchs.
Non, d'accord. Mais pour info, je regarde les matchs.
Voilà, donc...
okay. Et le match du Portugal, je l'ai vu aussi.
Donc.
Et comme je t'ai dit, il y a à aucun moment je t'ai contredit sur ce que t'as dit. Sur l'endroit où j'ai contredit, c'est excusez-moi, les pénaltys, je ne peux pas vous laisser dire ça. Que un joueur tire mieux les pénaltys que Cristiano Ronaldo.
Et les coups francs ?
Ça n'existe pas, mais bien sûr que si. Les coups francs arrêtent. Mais bien sûr que si, il y en a qui tirent mieux des coups francs que Cristiano Ronaldo. Arrête, Alexandre.
Il y en a beaucoup de
arrête. Hier, moi, j'ai regardé la prestation de Cristiano Ronaldo, il aurait dû sortir bien avant l'heure.
Mais il aurait dû pas démarrer déjà.
Non.
Mais en fait,
pas, démarrer, je ne sais pas. Honnêtement,
il doit même pas être convoqué, il joue en Arabie Saoudite.
Non, je crois pas, non.
Ah donc, il a 40 ans, N'Golo Kanté joue en Arabie Saoudite, il vient en équipe de France.
Il vient plus là.
Il a fait un bon match au début de l'Euro.
Non, il a fait plus qu'un bon match.
Mais là, il vient plus. Et Kanté, il a 34 ans, pas 40 ans.
Oui, non, mais
si Kanté, il est là à la Coupe du Monde 2032, il y aura des questions à se poser.
Comme il a parlé de l'Arabie Saoudite, je dis juste qu'il y a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite qui sont très très bons. Voilà,
non,
c'est la vérité.
Mais non.
Excuse-moi, mais
ça dépend de l'âge.
Bah oui, il y en a.
C'est pas parce que tu fais un comeback et que tu fais deux
matchs. Ivan Toney qui est très beau en fait, qui joue en Arabie Saoudite.
Mais Ivan Toney, il a 28 ans, les gars. Ah, il est en pleine force de l'âge.
Le gars, il a. Mais vous regardez des fois ne serait-ce que des résumés de matchs d'Arabie Saoudite.
Non,
mais ça
les
fait
gars,
la peine.
On va pas revenir. Franchement, ça me fait autant de peine que tous les autres championnats que je vois, que ça soit la MLS aussi. Si tu regardes,
la
MLS, c'est encore
pire.
Mais là, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est encore pire.
Je suis d'accord avec toi.
voilà, pour qu'on soit clair juste sur le débat, moi je revenais juste sur le fait des pénaltys. Après tout ce que vous dites entre vous, c'est vous, c'est vos analyses. Il n'y a pas de souci.
Et toi, t'en penses quoi alors ?
Moi, ce que j'en pense sur Cristiano Ronaldo, je pense que ça importe peu. Mais... non, mais attendez.
Allez,
voilà. Non, mais je vous dis.
Merci.
Non, mais attendez, Jason. Je vous dis. Je pense que ça importe peu le monde autour de la table. Apparemment, ça vous fait marrer. Jusqu'à Lucas et Maxence sont tout rouges.
Parce
et toi aussi,
t'es
tout rouge. Pas de l'intérieur. Pas. Non, mais attendez, moi, je vous l'ai dit. Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi,
actuellement, là, aujourd'hui,
excusez-moi, laissez-moi. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire plutôt. Et maintenant, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, je pense qu'il est fini. Dans le sens où, bah voilà. Pour moi, il n'a plus sa place avec le Portugal.
Non, mais.
T'as pas répondu ça au début.
J'ai pas répondu ça. Je suis revenu dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai dit les pénaltys. Non, mais attendez, j'ai grandi en voyant Cristiano Ronaldo tirer des pénaltys à la 90e minute plus je ne sais combien dans des matchs super importants et les mettre au fond sans pression.
Il gérait la pression.
Vois, or que quand je repense à plein
il
de
en a raté aussi,
joueurs
qui
tirent des
pénaltys. La Ligue des Champions, il l'a raté aussi contre Chelsea en 2008. Il l'a raté. Enfin, je veux dire.
Oui. Bah, comme tous ceux qui en tirent en vrai.
Ouais, mais c'est ce que j'ai dit.
Il en a fait gagner combien ?
Ah, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça.
Non, mais je dis juste que dans les moments les plus fiables, excusez-moi, demain, à la force, à n'importe quel joueur. Qui soit au meilleur de sa forme. Demain, vous avez un match important, vous êtes coach. 90 minutes plus, je ne sais combien, d'accord. N'importe quelle finale.
Pas en 2025.
Non, mais moi, je vous parle au meilleur de sa forme.
Ah oui, bah,
le joueur au meilleur
à 27
de sa forme.
Ans, ouais,
excuse-moi, mais le joueur que vous appelez, non, en tout cas, logiquement, pour tirer un pénalty à la 90e minute, c'est Cristiano Ronaldo et je ne vois personne d'autre. Clairement. Voilà. Après, c'est mon point de vue.
Les couleurs,
voilà.
Tout ça.
Voilà, exactement. Ça ne se discute pas. Maintenant, chez Kenza, est-ce que tu peux clôturer, s'il te plaît, ce que tu en as pensé du Portugal et de l'ensemble de la prestation des Portugais?
Je crois que le problème, on va revenir un peu à ce qu'ils ont dit, le problème c'est un peu Cristiano, parce que normalement il serait plus avantageux dans la rotation que d'être titulaire indiscutable en fait. Par exemple, oui, parce qu'il y a de la jeunesse, il y a de la fougue, il y a un collectif qui s'est construit, mais je crois que c'est un peu en fait l'élément un peu perturbateur, mais on ne va pas remettre sa carrière en cause. C'est que Cristiano vraiment c'est l'astre. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a tout donné pour son pays. Voilà, on ne peut pas remettre vraiment ses espoirs en cause. Mais là, ce n'est pas, en fait, c'est pas le joueur qu'il faut à cet instant précis pour la sélection espagnole et pour la sélection portugaise. Ce n'est pas le joueur qu'il faut pour son pays. Parce que quand on regarde vraiment que voilà, et les jeunes vraiment, ils se la butent et tout ça, au milieu de terrain, c'est fort, qu'ils soient sur les côtés, c'est très bon. Mais en neuf, Cristiano, ce n'est pas ça en fait. C'est pas Tony Truant, mais ça gâche des occasions et tout ça. Même oui, des occasions où il peut les concrétiser normalement. C'est plus le même Cristiano. Il est en deçà de la moyenne. Le pressing, c'est plus le même. Et tout ça, voilà. Même si les gestes techniques, certains sont loupés. Donc, on sent vraiment que le poids de l'âge et la vieillesse sont en train vraiment d'avoir raison sur lui. Et c'est un peu, en fait, c'est un peu une masse. C'est vraiment sur le collectif, en fait, comme on dit. C'est un peu une enclume sur le matos qui fait que l'équipe n'arrive pas à s'exprimer de façon claire, de façon un peu limpide, que ce soit parce que, comme on dit, Cristiano, même si c'est un leader, mais il vraiment, je sais pas comment on dit, en fait, il est tiré vers le bas, en fait.
C'est-à-dire, voilà. Je suis d'accord.
Il n'arrive plus à propulser cette équipe. Donc, je crois qu'il serait mieux dans la rotation. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose à dire parce que l'Espagne fait le match qu'il faut.
Portugal.
Le Portugal, plutôt, voilà. Je suis un peu dans l'espoir. Le Portugal fait le match qu'il faut. Et moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Je crois que cette équipe, vraiment, pourra compter sur elle dans les prochaines éditions, que ce soit à la Coupe du Monde 2026, même à l'Euro aussi 2028. On pourra compter sur cette équipe. Et peut-être que voilà, une équipe du top 4, mais pas plus, en fait. Parce que les Portugais, c'est très rare qu'ils vont gagner la compétition.
Merci, Cheikh Kenza. Il y a eu la Belgique qui ont perdu 3-0 à l'aller, 3-1 à l'aller face à l'Ukraine. Et match retour, Lukaku doublé. Et le retour de Lukaku hein, et de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui n'a pas été titulaire lors du deuxième match, lors du match retour. Mais au match aller, il était bien là. Et Lukaku qui s'est illustré 3 fois en 2 matchs. Ça a été le bon retour, Lukaku en Belgique.
Oui, bah après, Rudy Garcia a fait... ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dans un premier temps mobiliser les hommes. Il le fait dans tous les clubs, reprendre les cadres. Les premiers mois se passent souvent bien. Et c'est ce qu'il a fait avec Courtois, avec Lukaku, en ramenant les cadres de son vestiaire. J'avoue que je n'ai pas vu les matchs Ukraine-Belgique et Belgique-Ukraine. C'était les barrages de Ligue des Nations pour ne pas descendre en catégorie B. Là. Donc, Donc voilà, hier ils ont quand même eu du mal, hein. Enfin, j'ai vu un résumé rapide, ils ont quand même eu du mal, ça se décante, il y a 3-0 mais ça se décante très tard, autour de la 70e.
En 16 minutes, à partir de la 70e jusqu'à la 86e.
Ouais voilà, donc c'est pas, je pense que c'est pas un match maîtrisé de A à Z, mais oui c'est bien qu'ils refassent confiance à cette génération belge, même si pour moi elle est vieillissante, et je pense pas qu'il arrivera à de grandes choses avec cette équipe-là dans la forme qu'ils ont actuellement, les De Bruyne, les Lukaku, etc.
Merci. Et Lucas ?
Je suis d'accord avec lui, mais on n'a pas parlé de Allemagne-Italie. T'as vu ?
Oui, aussi, on va y revenir.
Ok, mais juste sur la Belgique, je suis d'accord avec lui, et je pense que c'est fin, en tout cas de Rudy Garcia, de rappeler les anciens, parce que je pense qu'il y avait un peu trop de pression sur les nouveaux, justement, Openda, Malik Fofana et autres qui vont reprendre la relève. Je pense qu'ils ont encore besoin d'une colonne vertébrale, même si je crois plutôt en De Bruyne. Au moins, ça permettra à la prochaine génération d'avancer plus sereinement. Et c'est des défenseurs qu'ils ont besoin, parce que les nouveaux défenseurs, c'est pas possible, vraiment.
Merci, Lucas. Bon, Alexandre ?
Même les anciens, c'est
pas ouf.
Mais non.
Non, les anciens avaient des cadres.
Ouais, c'est ça.
Songen, la FAS.
Ouais, c'est compliqué. Non, mais après, voilà, la Belgique... pour moi, c'est des pays un peu comme la Croatie. C'est des pays qui ont eu des générations extraordinaires. C'est un pays qui a pas beaucoup d'habitants, donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait un vide générationnel, tout simplement. Donc voilà, il y a rien d'alarmant, hein, en vrai. C'est juste que voilà, c'est une génération qui est vieillissante, et malheureusement, les joueurs qui arrivent, ils sont pas au niveau de la génération d'avant. Après, comme si tu veux parler du retour de Lukaku, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Franchement, Lukaku, c'est vraiment un... On n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un gros numéro 9 de notre génération, je trouve.
C'est une valeur sûre.
C'est une valeur sûre.
Après, dernièrement, avec la Belgique, il les avait un peu plombés. Ouais, hein.
Oui, avec... C'était
des gros loupés quand même.
C'est vrai qu'avec la Belgique, c'était pas ça. Mais en club, voilà, à Naples, il fait une bonne saison. Donc je trouve ça bien de la part de Rudy Garcia de l'avoir appelé. Après, voilà, la Belgique, on sait que dans les prochaines compétitions, je pense, en tout cas, ça ne va pas jouer grand-chose. S'ils se qualifient déjà pour les huitièmes ou les quarts d'un euro et les huitièmes d'une Coupe du Monde, c'est déjà bien, je pense. Donc voilà, rien à dire particulièrement sur ce match, parce que c'est vrai que je l'ai pas regardé non plus.
Merci. Cheikh Hamza ?
Ouais, pas grand-chose à dire.
Après,
ils ont fait le match, le plus important c'était de gagner, parce que Rudy Garcia, ça a toujours été comme ça, voilà. Compter sur les grands noms, ramener en fait, mettre les joueurs en confiance et les mettre en évidence et tout ça. Donc ça a été un peu ça, les cadres ont joué les partitions, chacun a tout de rôle, et le plus important c'est de gagner. Après, je crois qu'il peut faire beaucoup de choses, parce que Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui construit beaucoup. Quand il est arrivé à Lille, on n'attendait pas Lille à ce niveau, il les a ramenés à un haut niveau. À Naples aussi, bah oui, c'est lui qui a fait le ratissage en fait, c'est le bâtisseur de cette équipe de Naples jusqu'à gagner maintenant le Scudetto en fait, parce qu'il y a un travail de fond. C'est quelqu'un qui est un très bon bâtisseur. À la Roma, il a fait de belles choses.
Ah, il a bâti quoi à Naples?
Quand je dis à Naples, quand il arrive vraiment, c'est lui qui met les bases en fait.
Non, parce à la Roma, je suis d'accord.
Mais à Naples, lui, en fait, il y a des choses que vous ne comprenez pas en fait. Un titre, il ne se gagne pas en 2 saisons, 3 saisons.
Mais il a été viré en 3 mois à Naples.
Même s'il a été viré en 3 mois, il y a des choses en fait. Il y a des choses qu'un entraîneur peut commencer. Par exemple, je prends l'exemple de la CAN. La Côte d'Ivoire, quand on la gagne, tout le monde félicite Emes Faye. Mais cette CAN,
oui,
qui la gagne?
C'est différent. Oui, enfin, il a passé 2 semaines.
Mais qui la gagne?
Jean-Louis Gasset, il fait le choix des hommes et tout.
La gagne,
il prépare
en fait,
la
c'est
compétition
ça, en fait,
avant,
plus
c'est différent.
Une équipe, elle se prépare d'abord, pas des choix, pas des plans tactiques. Il y a des entraîneurs qui arrivent, qui sont dans la succession de l'ancien entraîneur, mais ils ne lui diront pas en fait. Parce que voilà, il ne viendra pas dire que oui, j'ai vu qu'il y avait des choix tactiques, il y avait des trucs qui étaient là. Mais Rudy Garcia, c'est quelqu'un, quand il arrive partout, il construit des choses solides, même si ce n'est pas celui vraiment qui bénéficie de ses choix et tout ça. Mais c'est
parce
quelqu'un...
qu'il fait des choix catastrophiques. Enfin,
il n'y a pas à investir avec
lequel ça se passe bien.
À Marseille, quand il arrive, qu'est-ce qu'il a fait, Rudy Garcia?
Il fait finale d'Europa League, ça que tu veux me dire?
Il est en championnat, il fait 8e.
C'est un pompier de service, Rudy Garcia.
Finale d'Europa League, après lui, qui a fait mieux? Qui a fait mieux?
Non, par contre, à la Roma,
depuis combien d'années, il y a eu combien d'équipes françaises qui sont allées en finale de Ligue de Coupe européenne? Il n'y en a que deux.
Il n'y en a que deux.
Marseille-Paris.
Dans ce cas-là, bravo à Galtier pour le PSG actuel, parce qu'il a posé les bases.
Mais il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux.
Non.
Oui, il n'y a pas mieux.
Par contre, là où je suis d'accord, c'est la Roma.
Quand on parle de
Galtier,
c'est pas pareil. C'est pas pareil.
On va parler vraiment
voilà,
de la prestation
vraiment,
de la Belgique.
La prestation de la Belgique, oui, c'était une bonne prestation dans l'ensemble.
Il fait la polémique.
Tu peux dire
non, je
ne
fais pas la polémique, mais ce qu'il dit, c'est vrai.
La polémique, mais je t'embête.
C'était une bonne prestation dans l'ensemble.
Il a coaché 16 matchs à Naples.
C'était une bonne prestation dans l'ensemble. Parce que le gars, il est arrivé.
De Laurentiis, ça voilà, dit après 15 jours, je savais que j'allais le virer.
Excusez-moi, il a fait que 2 mois.
déjà il gagne et on a vu un Lukaku qui, voilà, qui retrouve vraiment de la confiance. C'est ce qui est important pour des grands joueurs, quoi.
Merci.
Il dit qu'il a fait 16 matchs.
Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. Attendez, attendez.
Ouais, non, il n'a pas duré. Il n'a pas duré. Mais non, par cas, contre, c'est quelqu'un vraiment qui, voilà, qui.
Mais je suis d'accord. Je suis d'accord dans, pour Lille, pour la AS Roma et même à Lyon et Marseille. Même si ça n'a pas toujours marché, il a construit des choses. C'est vrai.
Merci.
Naples, c'était pas le bon exemple.
Merci, Chekenza. On va se faire une pause. On va se faire une pause vraiment et on va revenir. On va s'hydrater un peu et on va revenir pour la deuxième partie.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
C'est reparti dans Au bout du foot, 21h26. On va bien évidemment se projeter sur les matchs. Hein, maintenant, on connaît les adversaires des Bleus en demi-finale de la Ligue des Nations. France-Espagne. Est-ce que, mesdames, enfin, est-ce que messieurs, plutôt, vous pensez que la France peut le faire face à l'Espagne?
Bien sûr, la France peut toujours le faire. Il n'y a aucun match que l'équipe de France démarre contre n'importe quelle équipe où on se dit la France a aucune chance, ça n'existe pas. Par contre, qui
Rabiot, franchement, Gendouzi, à l'Euro, ah oui, le non, dernier Euro, aujourd'hui, la demi-finale, moi je savais, je pense,
ouais,
mais j'étais vraiment persuadé que l'Espagne allait
passer. Moi aussi, mais tu te dis sur un coup de dé, ça peut le faire.
Surtout 1-0. Un 1-0,
un petit braquage, tu te dis si Mbappé il se remet à l'endroit ce jour-là, ce qui n'a pas été le cas, ça peut le faire. Donc là, je pense que l'Espagne est favorite et je pense que l'Espagne a plus de certitude dans le jeu. Déjà, on sait l'Espagne comment ça va démarrer. La France, on ne sait pas. Est-ce que ça sera 4 offensifs? Est-ce que ça sera un 4-3-3? Est-ce que... On ne sait pas. Donc, on est dans l'inconnu total et on aura la réponse le jour J. Donc, jusque-là, c'est difficile de prévoir quelque chose. Donc là, si je dois désigner un vainqueur, je dis l'Espagne comme ça, mais on n'enterre pas les chances de l'équipe de France. Avec la qualité qu'on a, le matos qu'on a offensivement, on a toutes les lignes, on est très très fort. Un peu moins au milieu, mais on a quand même de la qualité partout, donc j'enterrerai pas l'équipe de France, surtout sur un format un peu Final Four, compétition très resserrée avec deux matchs en trois jours, demi-finale, finale. C'est typiquement ce qui plaît à Deschamps et il peut leur faire à l'ancienne, et je pense que ça va être le but du jeu. Ça va être une défense bien basse pour contrer les ailiers espagnols et puis les piquer dans le dos en contre avec un ou deux mecs rapides, et puis voilà, on sait à quoi s'attendre maintenant contre les grosses équipes.
Merci Maxence. Lucas ?
Moi, je vois l'équipe de France passer. Je pense que... J'espère, comme chez Kenza qui va jouer avec 4 offensifs, et que ça va passer. Je pense que le match d'hier, il a dû le remettre... Au moins, j'imagine qu'il y a une remise en question par rapport au match d'hier, et au-delà du résultat, la prestation. Il doit savoir qu'il a gagné grâce à ça. Il est très conscient, au vu de ses déclarations d'après match, de ce que lui a apporté Olise dans cette position. Il a un peu laissé entendre que ce n'était pas quelque chose qui était un coup de poker, quoi. Qu'il avait travaillé, qu'il y pensait à ce genre de composition. Donc moi, je me dis que s'il joue comme hier, que les joueurs d'équipe de France ont les mêmes intentions, juste un petit changement, parce que là, Théo Hernandez, malheureusement, cette année, ce n'est pas pour lui. Au-delà de son tir au but raté, la prestation est catastrophique. Et quand on voit ce que Digne a fait, quasiment le meilleur joueur dans le fiasco en Croatie, je pense que ça, c'est Digne sans jouer hier, il a gagné beaucoup de points. C'est le seul. Et je pense que si Deschamps, en tout cas, choisit bien ses hommes et bien sa philosophie, je pense que la France a toutes ses chances pour passer.
Merci Lucas. Alexandre ?
Ouais, moi je partage un peu leur avis. C'est vrai que même si en favori sur le papier ou même dans ce que tu vois depuis ces derniers mois, l'Espagne part avec un avantage, mais en vérité, c'est un match simple.
C'est ça.
Ouais, et ça va se jouer où ?
En Allemagne.
Ah, okay. Ah oui, donc le final, ok, il est en Allemagne. La France peut passer. Et après, voilà, c'est comme avait dit Chekenza, moi j'aimerais croire ce qu'il a dit en pensant que Deschamps il va jouer avec 4 offensifs et reconduire à la même composition qui a marché contre la Croatie, mais malheureusement je pense pas, je pense qu'il va retomber dans ses travers et c'est là que je me pose des questions. Après voilà, ce genre de match généralement pas tout le temps, mais généralement ça joue sur des détails et sur des individualités qui sont en forme. Donc nous, si nos 4 de devant ou 3 de devant ils sont en forme, je pense que ça peut le faire.
Merci Alexandre. Cheikh Kenza ?
Bon, moi je crois que vraiment Deschamps, il ne va pas faire les mêmes erreurs. Parce que s'il les répète, c'est qu'il n'apprend pas.
J'espère.
Ça fait 12 ans qu'il ne révise pas les leçons.
Voilà,
alors,
donc il va falloir réviser parce qu'il y a tout un peuple derrière. Donc voilà, on ne va pas stagner toutes nos vies, il faut avancer. Donc ça serait mieux vraiment qu'ils, voilà, qu'ils mettent les quatre offensifs avec certains Olysée, tout ça. Avec, et Manu Koné reconduit la même équipe. S'il faut peut-être moins Théo Hernandez parce qu'il n'a pas été, de, il n'a pas été vraiment concerné par, voilà, par le match. On n'a pas vu vraiment ces Théo qu'on avait l'habitude de voir. Peut-être que ça va un peu le chambouler un peu, il faut être un peu son orgueil pour qu'il puisse redonner. Peut-être que voilà, Lucas Digne peut commencer et après le sortir, le faire entrer Théo Hernandez. Mais la France a des chances aussi. Je vois 50-50 parce que l'Espagne veut une très bonne équipe. Ça, on ne va pas remettre ça en cause. La France aussi a une équipe, donc de part et d'autre, il y a des atouts, mais je crois que ça serait un match qui serait engagé. Et la France peut gagner, en fait, voilà. Et je crois que la France va gagner, parce qu'avec Deschamps... Voilà.
On est passé de 50% à...
Mais oui, mais c'est du 50-50.
Okay, là, c'est le patriote.
Ouais. Mais oui, c'est 50-50, mais la France doit gagner, en fait. À un moment donné, il y a un vainqueur.
Il y a une revanche à prendre. Okay.
Après, à noter qu'il y a la finale des champions 3 jours avant. Ça peut aussi jouer selon quels joueurs sont engagés. 3 ou 4 jours avant, il y a la finale des champions.
Le calendrier de juin, donc, c'est n'importe quoi. Plus la Coupe du Monde des clubs qui arrive juste après, 5 jours après, n'importe quoi.
Donc, tu sais pas, les mecs du Real, du Barça, du Bayern, est-ce qu'ils seront vraiment focus sur cet événement-là ou pas?
Même de Paris.
Même de Paris, évidemment, ouais.
Vous voyez vraiment Paris aller à la finale de la Ligue des Champions?
Tout est possible. Franchement, non, là...
D'accord, on va pas trop parler, on va pas mettre la charrue avant les buts.
C'est la semaine prochaine, ça, ça c'est la semaine prochaine.
On va mettre la charrue avant les buts, donc...
Mais merci, Cheikh Kenza. On va parler, bah, ça se déroule en Allemagne, hein. Il y a l'Allemagne qui se joueront tout simplement face
Portugal.
Au Portugal. L'Allemagne, qui ont battu l'Italie au match aller 2-1. Au match retour, ils menaient 3-0 à la mi-temps, c'était assez tranquille, avant que Moïse Kean a ce sursaut d'orgueil. Moïse Kean qui fait une très bonne saison hein, à la Fiorentina et aussi là avec l'Italie, auteur d'un doublé avec Raspadori qui met un but dans le temps additionnel, mais ça n'aura pas suffi. 3-3 entre l'Allemagne et l'Italie, avec un but gag notamment de notre cher ami Donnarumma encore, qui faisait partie du coup, hein, qui est en train de remobiliser ses troupes ou parler à l'arbitre, on ne sait pas trop. Et Kimmich qui a joué tout simplement le ballon avec Moussiala qui lui demandait de jouer. Ça m'a fait repenser au match
Barcelone-Liverpool.
Train d'Alexander-Arnold directement. C'est
voilà. Un peu le même style.
C'est
ouais.
Un peu le même style. Vraiment,
une attention.
Il n'était pas concentré en fait.
Bah là, encore pire même, je pense.
Il n'y avait personne qui regardait le poteau de corner.
La Ligue d'Italie, c'est encore pire.
Exactement, ils se regardaient tous entre eux. Il n'y avait aucun qui regardait le.
Donnarumma, il est au point de pénalty.
Donnarumma est sorti.
Il est carrément plus dans le but.
Il n'est plus dans le but.
Tour de demi-finale de Ligue des Champions.
Pour le contexte, t'as raison. Celui d'hier, sur l'image, il est encore plus gag. Quoi.
Mais dans l'action pure, sans prendre en compte le contexte, l'image est folle.
Ouais. Parce que l'autre, c'est Alexander-Arnold qui le joue super bien.
Ouais, exactement.
Parce qu'il part au début et il voit que la défense n'est pas... Non, mais il part au début et il voit que la défense n'est pas tout le temps. Mais cette image, je l'ai ancrée.
Bah oui, mais tout le monde l'a ancrée. T'inquiète pas que je l'ai ancrée aussi.
Du coup, il part et il voit que la défense n'est pas concentrée. Et il revient à ce moment-là, Origi qui est en train de le regarder en mode « vas-y, vas-y ».
Mais Wijnaldum, il est placé quand il met la tête, tu vois. Alors que là, ils sont pas placés.
C'est
Origi.
C'est celui d'avant. Ah oui, c'est vrai, moi, je pense à la tête de. T'as raison, t'as raison. J'avais pas le but.
Après, il a un doublé derrière et bon, on va pas refaire toute l'histoire. Mais voilà, en tout cas, Jamal Musiala qui marque comme ça et Donnarumma qui venait de faire un excellent arrêt en plus juste avant.
Exactement.
C'est dommage. Parce que sans ce but-là, on se dit, si l'Italie gagne 3-2, même si avec les 6 on refait le monde, 3-2, ça va aux prolongations. Comme les trois autres matchs qu'on avait. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette confrontation? En tout cas, cette double confrontation entre l'Allemagne et l'Italie.
J'avoue que c'est assez spécial, quand même, le comportement de l'Allemagne sur le deuxième match. Parce que sur le match aller, ils ont quand même bien maîtrisé leur sujet avec la victoire 2-1. Et hier, à 3-0, on se dit que tout simplement, l'Italie n'est pas au niveau et qu'il n'y a pas de match. Et le relâchement est super, super bizarre. En plus, on ne peut pas les taxer d'avoir lâché, etc. Parce qu'ils ont le Final Four chez eux. Donc, c'est un objectif très clair pour la Mannschaft.
Ça fait un moment
surtout après l'échec de l'Euro à domicile. Ouais. Je pense qu'ils ont envie de se racheter. Donc, assez inexplicable cette deuxième période, allemande et italienne par la même occasion. L'Allemagne, après, c'est une équipe dont il faut se méfier et qui, pour moi, est la favorite de ce Final Four, là, surtout à domicile.
Ah ouais, c'est la seule équipe qui n'a pas remporté la Ligue des Nations.
Dans les quatre.
On rappelle, la première édition a été gagnée par le Portugal, la deuxième par la France, et la troisième par l'Espagne, qui sont tenants du titre.
Non, je sais pas, le fait qu'ils soient à domicile...
La boucle, quoi.
Le fait qu'il soit à domicile avec des mecs qui seront un peu moins touchés par tout ce qui va être Ligue des Champions, etc., comme Wirtz par exemple, qui est déjà out de toutes ses compètes. Donc il va je pense être en forme sur le mois de juin. Moi je les vois faire quelque chose du coup sur ce Final Four. Après on verra bien, c'est les formes du moment au mois de mars, ça veut pas dire grand chose en juin, donc voilà. Mais
avec les blessés tout ça, on peut pas.
Mais sur le match d'hier, en tout cas, ouais, assez spectaculaire et assez spécial à analyser, en tout cas, ouais.
Merci Maxence. Chez Kenza,
Donnarumma, il a de quoi faire parler de lui tout le temps. Donc, je ne suis pas étonné hein, par son manque d'hydratation. Il peut te sortir une prestation XL. Après, il peut te sortir de n'importe quoi. Donc, après l'Allemagne, ouais, l'Allemagne, vraiment, c'est vraiment sur l'analyse du match. Je lui ai dit chapeau pour les premiers mi-temps. Ils ont été sérieux et tout ça. En deuxième mi-temps, ils ont lâché un peu prise. Et ça promet vraiment pour les demi-finales, Allemagne-Portugal. Je les vois faire sortir cette équipe du Portugal, vraiment. Ouais, cette équipe oui, de la CLSAO, je l'avais fait sortir parce que la Mannschaft, c'est sérieux, surtout les demi-finales et tout ça, c'est des compétitions qui prennent au sérieux parce que ils ont toujours été ça a toujours été des équipes rigoureuses que ce soit, mais ça me tonne un peu de la deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que le match était déjà acquis. Bon, après en tout cas ça a été du beau football pour ce week-end, en tout cas je me suis régalé, c'est tout. Merci. Ce que j'avais à dire.
Merci Cheikh Kenza. Lucas.
Moi je retiens surtout la très belle prestation de Moïse Kean. On voit que c'est quand même un attaquant qui n'est pas du tout au niveau des tops européens, mais qui fait sa carrière, et mine de rien, quand il a vraiment sa chance, quand il est installé titulaire, bah, il met toujours ses buts. Et là cette saison il est impressionnant autant en Serie A qu'en sélection, puisqu'hier franchement ses deux buts c'était des vrais beaux buts. Et effectivement je vous rejoins sur le relâchement de l'Allemagne, parce que vraiment, notamment le premier but, c'est vraiment un total relâchement de la défense qui le laisse partir, qui abandonne le marquage. Donc attention pour l'Allemagne, je sais pas s'ils sont favoris, mais en tout cas je pense qu'à l'heure actuelle on a les quatre plus grosses équipes européennes qui sont dans le top 4, et donc je trouve que c'est bien pour la compétition et ça lui donne de l'intérêt.
Merci Lucas. Alexandre.
Ouais, franchement l'Allemagne, moi si je devais miser, je mettrais plus le Portugal, parce que je les vois pas sortir les Portugais, même si c'est à domicile. Je me dis que le Portugal a plus de certitudes. Je sais pas, l'Allemagne, je trouve que c'est un cran en dessous collectivement et même individuellement. Ça se cherche encore, je trouve. Je pense que dans les années futures, pourquoi pas. Mais là, actuellement, c'est un peu tôt. Ils sont encore en reconstruction. Après, par rapport au match d'hier, pareil, je n'ai pas regardé. J'étais plus sur Espagne, Pays-Bas et France-Croatie. Mais honnêtement... si je devais retenir un truc, c'est pareil, la performance de Moïse Kean, parce que on sait tout le contexte, ce que c'est d'être un noir en Italie, etc. Et moi, à chaque fois que je vois Moïse Kean ou Balotelli, etc., sortir des grosses performances, ça me fait vraiment toujours plaisir. Et comme tu as dit, sa carrière, c'est pas une top carrière, mais je suis content de son retour actuel. Je suis content de sa même longévité en général, parce qu'il a quand même fait des top clubs en vérité.
Il a commencé à 16 ans aussi.
Il a commencé très jeune.
Il a commencé trop tôt.
Et en plus, les médias en Italie, ils rigolent pas. Enfin, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est un contexte compliqué. Et je suis content que les reviennent bien. Comme tu as dit aussi, elle a dit, il fait une bonne saison à Florence. Florence qui fait une bonne saison en général. Et voilà, moi, je suis content pour Moïse Kean. C'est ce que je retiendrai. Et dernière chose, Donnarumma, en ce moment, j'ai envie qu'on soit un peu indulgent avec lui, tranquille. Il a fait un match de fou contre Liverpool, et c'est bon, il faut le laisser se reposer. Et voilà, mais je mettrai une pièce quand même sur le Portugal.
Merci.
C'est un 2000, Moïse Kean, il a le temps encore de faire des grosses saisons.
Merci Alexandre. On va se faire une petite virgule avant de revenir pour la Coupe du Monde qualification Afrique. Le Mali qui s'impose 3-0 face aux Comores avant de faire un match nul face à la Centrafrique 0-0. Les Black Stars étrient le Tchad 5-0 et sont en train... En train maintenant d'étrier aussi Madagascar 3-0. Tout simplement le Ghana qui s'envole en tête de la poule, et on y revient juste après les virgules. Les Black Stars sont en tête de poule, hein, avec 15 points et 6 points d'avance sur leur concurrent direct qui est Madagascar en deuxième. Et le Mali, troisième avec 8 points. On a aussi l'Algérie qui sont imposés face au Botswana 3-1 et qui reste leader à égalité de points avec le Mozambique, hein, Mozambique-Algérie, qui vont se retrouver d'ailleurs, il me semble, demain.
Demain, ouais.
Si je, voilà,
demain soir.
Demain soir. Voilà, à suivre de près. La Côte d'Ivoire qui s'impose grâce à Guessant 1-0 face au Burundi. Et là, qui sont en train de gagner 1-0. C'est la 70e minute à l'heure où on vous parle. Et bien évidemment... le match en retard qui se à l'occasion de passer leader de la poule avec le match en retard qui se disputera pardon face à la Gambie parce que c'est un match qui va arriver aussi pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun tenu en échec face à l'Estonie et reste second de leur poule. Quelles sont vos impressions sur ces qualifications?
Pour commencer, si on parle de la Côte d'Ivoire, franchement, je suis content. Je suis content et en plus de ça, là, j'ai vu que, en fait, ils font vraiment une campagne solide pour l'instant. Et ça qui est bien, c'est qu'ils confirment un peu leur statut de favoris. Ils sont dans leur continuité. L'équipe, elle tourne plutôt pas mal, même si, bon, il y a un petit peu de méforme chez certains joueurs, mais en tout cas, défensivement, ils sont très solides. J'ai vu qu'ils s'étaient pris aucun but depuis le début des qualifications. Leur seul, ils sont à deux doigts de faire un perfect. Leur seul déficit de points, c'est contre le Kenya où ils ont fait 0-0. Mais à part ça, ils n'ont pris aucun but. Donc au final, c'est une campagne qui est vraiment, vraiment cohérente pour la Côte d'Ivoire. Et je suis content et j'espère qu'ils ne vont pas louper cette compétition, cette prochaine Coupe du Monde. Et sinon, après, si on parle des autres nations, pour l'instant, en fait, c'est un peu fidèle à... Pour l'instant, on n'a pas trop de surprises, en fait. Pour l'instant, on n'a pas trop de surprises. Pareil, je suis content pour le Ghana parce qu'ils ont totalement raté leur CAN. Et là, je trouve ça bien qu'ils puissent se rattraper parce qu'ils ont vraiment une équipe cohérente, le Ghana, mine de rien. Mais sinon, ouais, il n'y a pas trop de surprises. On voit que le Nigeria, ils sont en pole position.
Le Nigeria, ils sont très loin.
Galère, c'est ça que j'avais dit.
Ils sont quatrième de leur poule.
Ils ont gagné.
Et
là,
c'est Eric Schell qui a récupéré l'équipe là, et donc ils ont gagné. Mais eux, ils sont pas bien. Il va falloir qu'ils fassent un perfect jusqu'au bout.
Alors, c'est le Nigeria.
C'est Afrique du Sud, Bénin devant. Et Nigeria, 6 points en 5 matchs, c'est pas fou.
Okay, ils ont gagné avant hier, sinon ils étaient vraiment quasiment largués.
J'ai dit une des informations, mais à part ça, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de surprises de ce que je vois. Mais voilà, franchement, c'est toujours. En fait, juste pour élargir très rapidement le débat, moi je trouve ça ultra frustrant à chaque fois que. Après, bon, là, du coup, la formule va changer. Mais en tout cas, quand tu compares les formules d'avant, qui est 5 pays d'Afrique qui se qualifient alors que t'as 45.
Là, il y en a 8.
T'en as 8 alors que t'as 45
ça,
pays.
Ça reste sous-représenté
quand,
en fait.
Quand tu vas en Europe, t'as 14 pays alors qu'il y en a 30. Franchement, au bout d'un moment, moi je veux bien le niveau ou je sais pas trop quoi, mais au bout d'un moment, c'est juste une question d'équité. Et moi, je trouve ça injuste.
Même le niveau, c'est pas vrai. Je veux dire, la Serbie ou je sais pas quelle équipe qui va se retrouver en Coupe du Monde n'est pas meilleure que certaines équipes africaines qui n'iront pas.
Je suis d'accord avec toi. Et franchement, quand tu vois qu'à chaque compétition, t'as un barrage dramatique, etc. Mais je veux dire, t'as un gros pays d'Afrique, du coup, qui ne parvient pas à se qualifier. Moi, je trouve ça tout le temps dramatique et je trouve ça vraiment triste. Donc, j'espère qu'un jour ou l'autre, ça va se régler.
Merci, Alexandre. Lucas ?
Du coup, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexandre sur l'iniquité de ce système. Et je regrette que, entre guillemets, la puissance des fédérations et des pays interfère encore une fois dans le sport, alors qu'on dit que le sport, c'est pas politique. Sur ce qui est sur les résultats en eux-mêmes, je note quand même que les favoris sont pas tous. On a parlé du Ghana un petit peu, qui est bien, mais les favoris sont pas tous leaders. Ils restent encore en embuscade. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a les petites équipes qu'on découvre parfois à la CAN qui sont toujours bien placées. Je crois que le Cap-Vert est leader de son groupe, c'est ça.
Travaille bien.
C'est ça, ça continue. Et le Sénégal n'est pas premier de son groupe non plus. On disait le Nigeria, c'est compliqué. Il y a pas mal de grosses équipes, à part le Maroc, je crois, qui écrase tout. Mais Maroc, génération très très sérieuse. Voilà, les autres pays, ils ont encore des grosses échéances. Donc c'est bien parce que ça prouve.
Génération très très sérieuse, mais ils gagnent pas grand chose.
Hein. Non, ils gagnent pas. Bah,
ils gagnent pas grand chose, mais là, ils ont pas le droit de se louper. C'est à domicile.
L'année prochaine, ouais.
Non, mais au-delà même de cette CAN, je pense que vu la génération qu'ils ont. Pour les 3-4 prochaines années, ils doivent être une des nations majeures d'Afrique et même quasiment du monde. Si. Du coup, là, je trouve juste que les prochains mois vont être super intéressants parce que du coup, on a des favoris qui sont obligés de gagner et que le travail n'est pas déjà fait. Et je trouve que c'est une bonne dynamique et ça nous montre encore une fois ce qui a été entrevu à la CAN, c'est que les petites équipes progressent. Et on voit quand même que là, on a eu plein de beaux matchs à la CAN de l'année dernière et on espère juste avoir une aussi belle CAN l'année prochaine et que les équipes qui parviendront à la Coupe du Monde nous offriront du spectacle.
Merci Lucas. Cheikh Kenza.
Moi, vraiment, pour rappeler, il y en a 10 équipes.
Je préfère garder Maxence à la fin parce que chez Kenza, quand il commence avec la Côte d'Ivoire.
Pour rappeler, il y en a 10 équipes qui sont susceptibles de se qualifier au lieu de 8. Donc, du coup, on aura du beau monde. Mais vraiment, les grandes équipes sont en difficulté, comme il a dit tout à l'heure, Lucas. Il y en a pas mal d'équipes qui sont en difficulté. Par exemple, le Nigeria qui est en difficulté, le Ghana. Bon, l'Égypte, ça va.
Le Ghana, ils sont premiers.
Ils sont premiers, mais c'est pas trop ça, en fait.
J'attends le jour où l'Égypte...
Ils sont hyper larges.
Ils ont,
L'Égypte a 13 points,
aussi,
ça va.
Cameroun qui sont un peu mal, je crois, aussi.
L'Égypte a 13 points, ça va, ils sont premiers de la poule. C'est qualifié. Bon, oui, en tout cas, on espère vraiment avoir de gros, mais vraiment, pour cette Coupe du Monde, des équipes qui ont l'habitude de participer, comme l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Tous les grands, en fait, mais ça va être un peu difficile parce que là, y a certaines équipes qui ne sont pas vraiment au top, comme le Nigeria de Sékou Tchel qui est en train de revenir. La Côte d'Ivoire, c'est beau, mais pour moi, ce n'est pas flamboyant. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais.
Après, ce n'est pas du bon football.
Oui, ce n'est pas du football. Là, c'est du football, en fait, un peu, en fait, c'est mitoyen. Ce n'est pas du football comme j'aime, en fait. Ce n'est pas du football joué avec une certaine clairvoyance, avec des passes, des transitions, des passes et tout ça, des schémas de jeu, voilà, des dédoublements et tout, des actions vraiment fantastiques, comme on avait l'habitude de voir. Puis, dans l'ensemble, ça va. Faye, il assure. Mais il est très critiqué en ce moment au niveau d'Abidjan pour ses choix tactiques. Ça a toujours été comme ça, ça ne va pas changer. Maintenant, le Mali aussi qui s'est mis un peu en difficulté.
Un peu beaucoup. Hein.
Ben ouais, oui, qui s'est mis en difficulté. Par contre, qu'il y a une
équipe. Parce qu'ils ont 6 points de retard sur le Ghana quand même.
Oui, pourtant.
Et sur le barragiste, combien?
Pourtant, normalement, il y a 8.
4, je crois qu'il a 10 points le deuxième, je crois.
Non, ils ont un point sur le barragiste. Ouais,
ça... Pourtant, c'est une équipe vraiment qui peut.
Oui, mais le barrage, il me semble, le barrage, c'est les 4 meilleurs deuxièmes qui s'affrontent dans un mini tournoi.
Ça va être très très chaud.
Et ensuite, je crois que le dernier affronte quelqu'un d'autre d'un autre continent.
Oui,
comme ça. Normalement, il y a 10 pays.
Les matchs vont être faciles parce que ça va être contre la Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi. Ça va être l'Océanie.
Mais de base, il n'y a que les premiers qui sont qualifiés d'office.
C'est archi chaud. Ça va être super chaud.
Un seul par
ça va être super chaud.
Il n'y a que les premiers qui sont qualifiés d'office qui vont. Après, le Mali s'est mis en difficulté.
C'est un seul meilleur deuxième qui sera qualifié, ça. Tous les premiers de groupe et un seul meilleur deuxième.
Les 4 meilleurs deuxièmes vont s'affronter dans un mini tournoi.
Finis deuxième mais que t'es pas dans les meilleurs deuxièmes, t'es KO.
Ouais, t'es KO.
Et qu'il y a que un des meilleurs deuxièmes.
Il me semble que c'est ça.
J'ai pas le format en tête, j'avoue.
Il me semble que c'est ça, que c'est les quatre meilleurs.
Je sais que les premiers c'est bon, mais qu'après derrière c'est la jungle, mais je sais pas exactement le.
Moi, il me semblait que c'était les 4 meilleurs deuxièmes qui se qualifiaient et entre eux il y a un mini tournoi. Et celui qui gagne,
c'est uniquement le gagnant qui refait un barrage contre une autre zone.
Parce qu'avant c'était tous les deuxièmes qui s'affrontaient en mode match unique.
Non, avant juste les deuxièmes ils étaient éliminés. C'était chaque premier des poules. Il y avait 10 poules. Les premiers des poules s'affrontaient.
C'est les premiers des poules s'affrontaient.
Aller-retour et il y en a que 5 qui passaient.
En fait là ça va être 9 équipes africaines qui seront qualifiées directement si elles terminent en tête.
Oui,
et la 10e équipe sera qualifiée si elle remporte le tournoi des 4 meilleurs deuxièmes.
Ouais, donc le tournoi faut même pas compter dessus.
Non, et après les 4 meilleurs troisièmes ils doivent pas aller affronter une équipe d'un autre continent.
Non. La 10e équipe elle est qualifiée si elle gagne le tournoi des 4.
Donc il y a que 9 poules. Il y a 9 poules.
Ouais, faut finir premier quoi.
Voilà, il faut finir premier.
C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud.
Donc ça veut dire qu'on peut dire déjà que Cameroun, Nigeria sont en danger, que ça va être super compliqué.
Que même l'Algérie est en danger.
Même la Côte d'Ivoire elle est un peu en danger parce qu'elle est deuxième. Voilà, parce
que c'est un final four qui est énorme déjà de ce qu'on vient de dire.
Non, je crois qu'il y a des équipes parce que la Côte d'Ivoire elle est match en moins et tout ça.
Oui, c'est vrai. Là, s'ils gagnent, ils passent devant, mais ça reste.
Non, mais l'Algérie, ça va, non?
Bah, ils sont égalité. C'est demain que ça se joue parce que je crois qu'ils sont à 12-12 avec le Mozambique, si je me trompe pas.
C'est ça.
Et demain, c'est Algérie-Mozambique.
Et même le Sénégal, ça va être chaud. Parce que demain,
ça va être chaud.
Le Congo, et puis t'as le Soudan qui est devant.
Bah, globalement, c'est chaud pour à peu près tout le monde, à part peut-être le Ghana qui
a l'Algérie, je vois pas ce qui est chaud. Hein. Ils sont à égalité de points avec le Mozambique. Et là, ils sont que au match aller. Hein.
Le Maroc, ça va. Le Maroc, ça va.
Ils sont décrochés. Il y a la Guinée qui ont 7 points.
Non, c'est que face au Mozambique. Faut pas que le Mozambique soit devant.
Le Cameroun, c'est chaud.
Après, tu sais qu'ils peuvent perdre des points contre d'autres.
Honnêtement, il reste encore 5 matchs.
Oui, c'est long. Bah après, à part pour une équipe comme le Nigeria qui est tellement mal parti ils sont déjà le couteau sous la gorge pour les matchs.
Grosse désillusion
pour le Sénégal parce qu'il y a le Soudan devant, il y a le Congo aussi.
Mais oui, c'est vrai qu'on n'est même pas on a mis parcours là. Il y a encore du.
Mais même s'il y a encore, tu sais qu'en Afrique, le football a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'il y a eu pas mal d'académies dans tous les pays en fait. C'est-à-dire le niveau, il est tellement rehaussé qu'aujourd'hui, en fait, si tu fais un déplacement au Soudan, par exemple, pour le Sénégal, ouais, c'est pas gagné d'avance qu'il y a 5 ans en arrière, en fait. Tu maintenant, t'imagines que que le Mali se met en difficulté par des équipes normalement qui sont censées être moins fortes qu'elles, c'est qu'il y a un problème. Tu t'imagines que la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à battre le Gabon, c'est qu'il y a un problème. C'est que le football est volé de part et d'autre. Donc, les cartes sont redistribuées. Il n'y a pas vraiment de pseudo-favoris. Ça, c'était des langages qui sont vraiment datants.
Mais c'est pas un problème, du coup, c'est plutôt bien.
C'est
plutôt
bien, mais ça montre que vraiment que oui, qu'il y a des équipes, vraiment des super équipes africaines. Voilà, comme on dit, peut-être les 5 meilleures premières nations africaines, il y en a parmi elles qui ne vont pas participer. Parce que oui, parce qu'il n'y a pas un travail qui est abattu, ils ont dormi un peu sur les lauriers.
Merci,
imagine un peu au Cameroun, ça a été un peu ça.
Merci chez Kenza, il faut juste qu'on avance. On va se faire une petite virgule hein, avant de revenir sur la Coupe du Monde qualification en Amérique du Sud. Ça chauffe entre le Brésil et l'Argentine avec notamment Rafinha qui est parle. Très remonté face à l'Argentine. Et on y revient juste dans quelques secondes. Coupe du Monde, qualification Amérique du Sud, l'Argentine sans Messi s'impose 1-0 face à l'Uruguay grâce à un but d'Almada et garde la tête de la poule. Le Brésil s'impose dans le Money Time face à la Colombie grâce à un but de Vinicius Junior et leur permet d'être à 3e avant d'aller affronter l'Équateur qui seront 2e aussi, qui sont imposés face au Venezuela. Il y aura Argentine-Brésil dans 2 jours, dans 2 nuits plutôt, Argentine-Brésil. On a vu Rafinha très remonté contre cette équipe d'Argentine. Hein, c'est un classique un peu en Amérique du Sud. Hein, et du coup, voilà, il a dit que tout simplement, il fallait gagner. Excusez-moi, hein, mais il faudra vraiment être très rapide dans vos analyses, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se faire un petit quiz pour finir cette émission. Maxence ?
Je vais faire très vite. Moi, les qualifications en Amérique du Sud ne m'intéressent pas parce qu'on parlait de l'Afrique qui n'a pas assez de place, etc. L'Amérique du Sud, tout le monde est qualifié. C'est simple.
C'est
il y a 10 équipes. Il y en a 6 qui sont qualifiées directement et une 7e qui fait les barrages. Du coup, on se retrouve avec des Bolivie qui sont dans le truc.
Non, Bolivie, pas cette année. Les autres années, mais là, cette année, Bolivie, ça joue bien.
Ouais,
c'est...
Ils sont bas.
Oui,
non, mais d'accord.
Chili,
mais donc, du coup,
tout le monde
passe. Enfin, ouais, en gros, tout le monde passe.
Les gros, ils passent. Ils
là,
sont
le Brésil, l'Argentine, ils jouent des matchs amicaux. Ils savent déjà qu'ils sont passés au bout de la moitié des matchs, même pas. Donc, franchement, ça m'intéresse vraiment pas. Je mets pas mon réveil la nuit pour regarder ça. Ça n'a pas de valeur à mon sens. Et pour le coup, ça devrait être distribué. Quand t'as que 10 pays, tu peux pas en avoir. Même si ça pèse en Coupe du Monde, l'Amérique du Sud, etc., on le sait. Mais tu peux pas avoir 6 places et demie, voire 7 sur un continent qui a que 10 pays.
C'est après, c'est aussi une question de géographie en vrai, tu vois. C'est que c'est pas de leur faute s'il y a 10 pays. Parce qu'après, imagine dans les 10 pays, t'en qualifies que 3. Tu vois, par exemple.
Bah, tu peux en mettre 3-4.
Ouais, imagine t'en qualifies que 4, peu importe. Au final, t'auras 4 représentants d'Afrique du Sud. Et vu qu'il y a 50 pays en Afrique, normalement, si tu devrais en avoir.
C'est 10 l'Europe
en Afrique,
qui devrait en avoir beaucoup moins. Ouais.
Oui, c'est l'Europe en vrai qui devrait en avoir beaucoup moins. Et peut-être l'Océanie et l'Asie.
D'accord, c'est plus déterminant en fonction des vainqueurs en fait.
Ça en fonction des vainqueurs. Que ça soit en Amérique du Sud, pour moi, ça doit être moins. Ça doit être 3-4, pas plus. Bah, la façon, là, si tu regardes le ratio.
Ça dépend combien t'es dans la Coupe du Monde.
Si tu regardes le ratio en Afrique, je pense que c'est.
En fait, le problème, c'est que t'as 48 équipes
maintenant. Il y a 6 équipes dans une poule. Le premier, il est qualifié. Donc, si tu prends 2 poules, 12, il y en a 2, ils sont qualifiés sur 12. Et là-bas, il y en a moins et ils en ont 6-7.
On pourrait faire un 4x8, ça fait 32. On revient à l'ancien truc.
Oui, tu reviens à l'ancien truc et là, tu fais plus d'équité dans les trucs. Mais bon.
Voilà, en tout cas, bref. Merci Maxence. Du coup, toi, on sait que tu vas pas te lever pour regarder le match Brésil-Argentine. Lucas ?
Bah, j'attends quand même de voir. Il y a des joueurs, même si il y a toujours ce truc, même avec la Ligue des Nations, où ça coupe un petit peu l'élan des clubs, il y a quand même plein de joueurs qui font des grosses saisons et que j'ai envie de voir sur ce match. Et je tiens aussi à souligner que l'Équateur fait un sacré parcours, ils sont deuxième. Ouais. Et je suis sûr que c'est une équipe qui va beaucoup nous étonner à la Coupe du Monde dans la lignée de ce formidable joueur qui est Pacho.
Merci.
La merci. Propagande.
Et Cheikh Kenza, pardon.
Ouais, en Amérique du Sud, ça promet. Hein, c'est le même classique, en fait. On connaît déjà les équipes qui vont être qualifiées d'office. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui vont bousculer un peu la hiérarchie. Parce que là, avec l'Équateur, vraiment, qui surprend tout le monde. Comme il a dit, c'est une superbe équipe, joueuse et tout ça, en fait. Et plus un collectif que des individualités. Ça promet aussi Brésil-Argentine, oui, parce que en fait, l'Argentine, même s'ils ont 7 points d'avance, qui sont largement en tête et tout ça sur le Brésil, avec 6 points sur l'Équateur, bon, le Brésil peut un peu les rattraper un peu, mais vraiment, ça serait un match, comme on dit, un gros classique, avec des tensions et tout ça, donc c'est prometteur.
Quelle équipe, pour toi, qui est ton favori sur Brésil-Argentine? Pour toi, qui va remporter ce match?
Bon, je crois que au vu des derniers matchs, vraiment, le Brésil peut vraiment les inquiéter, les mettre en difficulté. Même si l'Argentine, c'est costaud, même sans Messi. On l'a vu que oui, ils sont dans la continuité. C'est une armada offensive. Le terrain s'est bien organisé. Même si ces dernières confrontations, l'Argentine a toujours pris une ascendance sur le Brésil. Mais je crois que cette équipe du Brésil-là, avec la rage un peu, avec Rafinha qui est dans la forme de sa vie, avec un Vinicius et un Rodrigo, je crois qu'ils peuvent les faire mal. Je vois vraiment le Brésil les battre, mais pas d'un gros score, peut-être 2-1 ou 3-2. Parce que Brésil-Argentine, ça promet tout le temps.
Merci.
Il y avait un truc à dire au niveau du quota de qualification. C'est donné en fonction des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde. Vous voyez qu'en Amérique latine, il y en a plus d'équipes. Ouais, d'équipes.
Pratique comme ça, ils la gagneront jamais, les continents qui ont peu de gagnants.
Oui, mais c'est donné en fonction de ça parce qu'il y en a plus d'équipes en Amérique latine. Tu vois, il y a le Brésil qui la gagne 5 fois, l'Argentine qui la gagne 3 fois.
Non, mais là, c'est n'importe
quoi. Voilà, il y a des équipes, en fait, c'est des fortes équipes, en plus qui sont régulières dans le parcours et tout ça. Donc, c'est un peu à travers ça que le nombre de participants soit un peu défini, parce que l'Afrique...
Et la puissance des fédérations.
Bah oui, c'est un peu ça aussi. Tu t'imagines que voilà, donc c'est ce que j'avais à dire.
Merci, Chekenza. Alexandre, pour conclure ?
Ouais, pour conclure rapidement, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Maxence, c'est-à-dire que tu connais un peu déjà les équipes qualifiées, mais ça devient vraiment n'importe quoi. Tu auras des Paraguay, Bolivie, des trucs qui n'ont aucun sens. En plus, je crois que ce sera 16 groupes de 3 équipes. Enfin, ça va être n'importe quoi la prochaine Coupe du Monde.
Ah oui, ça, c'est n'importe quoi. Les deux premiers passes.
Les deux premiers passes, après, tu auras des 16e et tout. Enfin, bref, c'est un bazar pas
donc,
possible.
Autant dire que pour être éliminé en poule, faut vraiment forcer quoi.
C'est pour ça, mais moi, je me demande. Enfin, bon,
parce qu'il y aura des matchs qui devraient avoir lieu en qualification, encore une fois. Et on a des compétitions qui, globalement, sont moins fortes.
Tu verras, t'auras un Paraguay-Thaïlande qui va tomber. Tu vas voir, l'Angleterre, ils vont mettre leur équipe B au.
C'est bien,
au
peut-être
match.
Que l'Italie sera là cette fois.
Enfin, bref, mais en tout cas, sur Brésil-Argentine, rapidement, moi, je pense que l'Argentine va gagner parce qu'en fait, ils sont trop vicelards, les Argentins. Ils sont trop relous, en fait. Ils sont trop relous. Et à mon avis, le Brésil, malheureusement. Ils vont tomber dans
le piège.
Ouais, je pense qu'ils vont tomber dans le piège une fois de plus. Mais en termes de jeu, pour moi, y a, même si le Brésil, c'est mauvais. Enfin, ça revient un peu mieux en ce moment, c'est vrai, mais c'est mauvais en général. L'Argentine, c'est encore pire. Donc honnêtement, c'est sûr qu'on ne va pas se lever le matin. En plus, ça va tuer les internationaux qui vont revenir. Parce que
et le Barça joue jeudi, hein, d'ailleurs. Le Barça joue jeudi. Bon, bref, les internationaux sud-américains pourront pas jouer le match.
C'est n'importe quoi, c'est une catastrophe.
Mais Rafinha et Aroro, ils viendront en jet privé.
Oui,
donc,
oui,
mais ils ne joueront pas quand même. Hein.
Ouais. Merci, Cheikh Kenza. On va se faire même pas une petite virgule. On va directement enchaîner avec le quiz. C'est bon pour toi.
Je suis déter, là. Je gagne jamais.
Ok, c'est parti. Selon CIES, Centre International d'Études du Sport, quels sont les 5 meilleurs clubs formateurs? Un point par ceux qui trouvent les clubs. Les 5 meilleurs clubs formateurs
Lyon.
Dans l'ordre.
Dans l'ordre.
Rennes.
Lyon, 3e.
En France?
Non, en Europe.
Ah, Barcelone.
Rennes.
Barcelone, oui. Lyon.
Ajax, Amsterdam.
Real.
Real, Paris. Real. Paris,
Ajax,
Paris.
Ajax, Amsterdam.
Paris Saint-Germain.
Non.
Ajax, Amsterdam.
Non.
Monaco.
Manchester City.
Non. Non.
Chelsea. Quoi? Attends, c'est une blague.
Tu n'étais pas loin. Je répète. On a Real en première position, on a le Real.
Quoi? C'est pour ça qu'il a posé la question, je le savais.
Non, mais c'est un dis ce qu'on a déjà, on va
prendre Maxence, on va t'éliminer. Real en premier, deuxième Barça, troisième l'Olympique Lyonnais.
Il n'y a pas Rennes dans cette histoire.
Rennes.
Je l'ai dit 5e, mais je l'ai dit 3 fois. Je devenais fou de. Okay.
Rennes, 5e. Okay. Ça m'a surpris. Okay. Le 4e, c'est l'équipe anglaise.
Arsenal. City, Chelsea.
Liverpool.
United.
Non. United.
C'est pas vrai.
Cool, mais c'est quoi ce qui s'est éclaté?
Merci, United. Deuxième, c'est parti. Quel est le meilleur buteur de l'Euro 2016?
Ah, c'est Griezmann.
Griezmann.
J'allais dire.
Meilleur joueur, meilleur buteur, évidemment.
Bien joué. Quel joueur a marqué le but victorieux lors de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre?
Oyarzabal.
Oyarzabal, Maxence, c'est toi. On va continuer. Qui remporte la première ligue en 2009-2010?
Chelsea.
Ouais,
Chelsea. Didier Drogba. Il a pensé tout de suite à Didier Drogba. Merci. Cheikh Kenza. Une petite dernière. Quel est le meilleur buteur de la Liga lors de la saison 2008-2009.
Oh. Diego Forlan.
Diego Forlan.
Wow, c'est fort ça.
Avec Villarreal.
Diego Forlan.
Devant Samuel Eto'o.
Exactement, Diego Forlan.
Qui a un triplé à la dernière journée, je crois, pour passer devant Samuel Eto'o, qui a été meilleur buteur toute la saison. Ouais. Bien joué, je l'avais.
Merci Jay pour le chrono. Bah, je pense que c'est. Je pense que c'est chez
Kenza. Ouais, sur la dernière, elle valait 3 points, ça.
Il est remonté en puissance, en tout cas. Lui, dès qu'on parle à l'ancienne, il est prêt, en tout cas. Bah, merci à Jason à la technique. Merci à Maxence. Merci à Lucas. Merci à Alexandre. Merci chez Kenza. Et merci à vous déjà. Et on vous dit bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour des matchs. Encore des matchs. Toujours des matchs. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Say